Bonjour, bonjour, bonjour le chat, bonjour, comment tu vas? Salut tout le monde, salut, salut, bienvenue, comment ça va les amis? Hop, 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 nouvelle séance de questions au gouvernement qui commence à 14h. La bonne intro d'écho, je suis content que tu l'aies gardée, mais oui. Enfin, elle va changer dans quelques mois, normalement, si tout se passe bien. Ça va bien et toi? Bah ça va, moi ça va. Moi ça va, moi je suis content de vous retrouver. Je suis encore en train de rattraper ton live d'hier. Coucou Jean. Et ben bah voilà, regarde, tu vas pouvoir te rattraper directement avec ce live aujourd'hui. J'imagine que tu as vu passer outre, hein, que t'es pas passé outre les centaines de clips de les commissions d'hier. Ouais, j'ai vu qu'hier il y avait des commissions d'enquête parlementaire qui ont interviewé, qui ont interrogé, auditionné, comme on dit, plusieurs personnalités. J'ai vu qu'il y en avait un dont j'ai oublié le nom qui a déconnecté sa caméra en pleine commission parce qu'il s'est engueulé avec le président. Ça, je l'ai vu. Le président de la commission. C'est Alex Hitchen. Voilà, c'est ça, c'est Alex Hitchen. C'est Alex Hitchen. Non, je sais pas, il y avait Nasdaq aussi qui était interviewé. Qui était auditionné, par contre. Putain, faut que j'arrête avec le mot interview. Les interviews, c'est dans Backseat. Les auditions, c'est en commission. Non, je sais pas, vous avez vu passer quoi d'autre comme clip important? C'était un sacré bordel, j'ai siroté mon thé en regardant ce naufrage. Beaucoup de commissions en ce moment. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de commissions d'enquête. Bah, on en parlait dans Backseat la semaine dernière, hein, c'est le retour du pouvoir parlementaire, et c'est au Parlement que se passent les choses maintenant, beaucoup plus qu'au gouvernement. Sans parler du budget, qui va être une autre paire de manches. Manon et Julien Tanti, des personnalités télé-réalité, qui découvraient pendant l'audition que non, faire de la pub sur TikTok avec ses gosses, c'est pas légal. Ah bah ça, la formation des créateurs de contenu, hein, c'est tout un délire. J'ai regardé l'intégralité des auditions et les influenceurs d'hier ont été globalement lamentables. Pas intégralement, mais vraiment lamentables. Ok, d'accord. Bah, je vous avoue que j'ai pas regardé, hein. Je suis un peu passé à côté. L'anecdote de Adé Laurent avec ses escapades en Thaïlande, Nasdas qui hausse la voix en répondant au président de la commission, un sacré sketch. Ouais, j'ai vu que Nasdas, il avait monté la voix, ouais. J'ai vu ça. Mais c'est bien parce que, enfin, c'est bien. Au moins, ça a le mérite d'intéresser beaucoup de gens à l'Assemblée nationale. On va pas s'en plaindre ici. Il y a celui qui nous explique ce que c'est qu'un CA et qui demande le salaire d'un député et pourquoi ils ont un chauffeur. Ben, il a pas dû être déçu de la réponse. Après, vraie question, est-ce que ce sont des créateurs de contenu que vous suivez, vous? Nasdas, Adé Laurent, Alex Hitchen, etc. Est-ce que c'est des gens que vous suivez? Moi, pas du tout. C'est vraiment pas des gens que je suis, je sais pas ce qu'ils font, jamais entendu parler vraiment. Je passe complètement à côté, quoi. Je connaissais même pas les noms. Non, pas du tout. Certes, non. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Qui? Jamais entendu ça de mes yeux. Moi, je connais pas, hein. Hitchen, je sais qu'il raconte des trucs globalement problématiques. Bah, c'est un masculiniste, Alex Hitchen, de ce que j'ai compris. Attention, hein, je fais pas de hiérarchie sur les créateurs de contenu entre ceux que je regarde et ceux que je regarde pas. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai une supériorité morale parce que je ne connais pas ou parce que je ne suis pas certains créateurs de contenu. Hein. Et sûrement des très bons créateurs de contenu à côté desquels je passe. Non, mais c'est pour dire que j'ai entendu son nom. Ouais, non, non, mais t'inquiète, hein. Et je ne m'attends pas à ce que les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale n'auditionnent que des personnes que je connais. Évidemment, Hugo Décrypte, je connais, par exemple. Ça, Hugo Décrypte, oui, je connais. J'ai pas beaucoup l'occasion de regarder ce qu'il fait, mais je sais ce qu'il fait. Pour moi, Jean Massier, c'est un créateur de contenu. Alex, je sais plus comment, c'est un influenceur. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur la limite entre les deux, sur les influenceurs, c'est ceux qui sont des panneaux publicitaires ambulants. T'as été invité? Non, non. Non, non, non. Ça doit avoir été expliqué 1000 fois, donc sorry, mais il n'y avait pas déjà des QAG hier. Si, mais il y a 2 séances par semaine de QAG. Il y en a une le mardi, une le mercredi. La séance du mercredi, elle est un peu plus courte parce qu'il n'y a qu'une seule question par groupe. Est-ce que tu as vu les extraits de leurs auditions? C'est assez lunaire. Oui, on en parlait tout à l'heure. J'ai vu quelques extraits passer, ouais. J'ai vu quelques extraits passer des auditions. C'est dingue, j'ai pas accès au dérouleur de la séance. Casse les couilles. Alors normalement, attendez, bougez pas. Il faut juste que je fasse une recherche sur le site.
Dispositif national et donc
Chut,
la question.
ta gueule, ta gueule. Où est-ce que je trouve la feuille jaune de l'Assemblée nationale? Parce que celle que j'ai là, elle bug. Je sais pas, je trouve pas. Les questions au gouvernement pendant que je révise mon bac de français. Courage pour le bac, courage à tous les futurs bacheliers. Bon courage à vous, c'est la dernière ligne droite, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai confiance en vous. Est-ce qu'on a des nouvelles de Rima et du reste de l'équipage? Non. À ma connaissance, non. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais je crois que ça n'a pas changé depuis hier. Rima et les membres de l'équipage qui n'ont pas signé le document reconnaissant qu'ils étaient entrés illégalement sur le territoire israélien sont toujours emprisonnés en Israël dans l'attente de leur jugement avant leur expulsion. À ma connaissance, ça n'a pas bougé. Je crois avoir vu qu'il y en a un qui a entamé une grève de la faim. Ah bon? Sur le site de l'Assemblée, dans l'onglet Travaux parlementaires, séance publique. Bah écoute, je vais essayer, ouais. Putain, mais il rame le site de l'intérieur. Séance publique. Comment il rame le site de l'Assemblée aujourd'hui? Oh là là. Je crois que vous êtes trop nombreux sur le site de l'Assemblée. Il y a trop de monde sur le site de l'Assemblée. Il est en train de claquer là. Est-ce que tu sais comment accéder au calendrier des niches parlementaires? Oui, tu tapes sur Google calendrier session parlementaire. Non, calendrier session Assemblée nationale. Et tu cliques sur calendrier prévisionnel de la session. Hop, et ça t'ouvre un PDF que je vais te montrer tout de suite. C'est ce PDF-là. Et c'est là que tu as les niches parlementaires. Donc là, on est au début du mois de juin. La niche GDR, elle est déjà passée. Et la prochaine niche, c'est le 26 juin, c'est l'UDR de d'Éric Ciotti. Ici. C'est ça la prochaine. Ah, oh, pardon, excusez-moi, il y a ma caméra qui gêne. Voilà. Vous voyez là, l'UDR. Le 26 juin, c'est la niche de l'UDR. Voilà comment tu fais pour trouver les niches parlementaires. C'est quoi les semaines de contrôle? C'est des semaines qui sont dédiées au contrôle de l'action du gouvernement. C'est là qu'il y a des auditions de ministres en commission, par exemple. C'est des semaines, ouais, contrôle de l'action du gouvernement. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale, elle a trois missions. Elle a l'écriture et le vote des lois, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. C'est les trois missions de l'Assemblée nationale. Et le travail de contrôle se fait en même temps que le travail d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les commissions. Mais il y a aussi les séances de questions au gouvernement. Les séances de questions au gouvernement sont des séances de contrôle. C'est la niche de qui, celle en ce moment? Il n'y a pas de niche en ce moment. La niche, c'est le jeudi, une ou deux fois par mois. Donc ouais, non, si vous cherchez en général sur le site internet de l'Assemblée, vous avez accès. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon, j'ai retrouvé. Ok, le site internet de l'Assemblée a l'air de respirer un peu. Tant mieux pour lui, il en avait besoin. Hop. Bon, c'est quoi les sujets qui peuvent tomber cette semaine dans les questions au gouvernement? On a déjà vu la semaine dernière. On a déjà vu, pas la semaine dernière, mais hier, on a vu beaucoup de questions sur MaPrimeRénov', des questions sur l'assassinat de la surveillante dans un collège de Haute-Marne. Questions sur Israël et sur la flottille? Ouais, peut-être. Une nouvelle question sur la flottille pour saisir le gouvernement sur ce sujet-là? Peut-être. Les projets miniers dans l'Ouest qui finissent leur consultation le 18 juin, dont personne n'a parlé pour que les gens soient au courant. Bah oui, mais d'accord, mais c'est quoi la question au gouvernement du coup? Flottille, port d'armes des jeunes, ouais, l'interdiction des couteaux. Et l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, ouais, pour les jeunes de moins de 15 ans. C'est la proposition de Gabriel Attal, ça, d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Macron est revenu dessus aussi pendant une interview. Ah ouais, il a dit quoi, Macron? J'ai pas entendu. Sur les réseaux sociaux. Le port de couteau est déjà interdit. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'interdire le port, il s'agit d'interdire la vente. Sur la grève des taxis qui sont en opération filtrage sur la A6, je suis en direct, je vous dis pas le boxon, force à ceux qui sont bloqués et au taxi. Ah ouais? Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les questions au gouvernement de la mobilisation des taxis sur les négociations sur les tarifs de la sécurité sociale. Qu'il voulait interdire si ça se faisait pas au niveau de l'Europe dans quelques mois. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Macron a dit que la France allait interdire les réseaux aux moins de 15 ans si l'Europe ne le faisait pas elle-même. Si l'Union européenne n'agit pas pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, alors la France le fera de son côté toute seule. Effectivement, il a dit ça hier, ouais. Ah, peut-être que ça pourrait mériter une question au gouvernement, effectivement. L'interdiction de la vente de couteaux, les pauvres mineurs, ils pourront absolument pas prendre les couteaux dans la cuisine de leurs parents. Bah, c'est pas tout à fait des couteaux de cuisine que les gamins essayent d'acheter, hein. C'est des couteaux un peu fancy que tu trouves sur Internet notamment. De ce que j'en comprends, hein, de ce que j'en ai compris. Des Opinel aussi. Ouais, voilà, des Opinel, des couteaux de type Opinel. Si les Opinel, c'est pas forcément les plus fancy, mais. Les Ghost Knives. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est les couteaux que t'as dans les jeux, genre Counter-Strike, Valorant. C'est ce genre de couteau-là, je pense. Question bête, mais comment font les mineurs pour commander sur Internet? Il faut la CB pour ça. Eh ben, ils utilisent la carte bleue de leurs parents. Hein. Tous les parents ne sont pas au top de la vigilance, malheureusement. Il y a même des parents qui savent pas ce que c'est qu'un réseau social. Des choses qui arrivent. C'est quoi un réseau social selon le gouvernement? YouTube, Twitch, TikTok, Insta? C'est une bonne question que tu poses. Parce qu'en fait, ça pose la question de la différence entre un réseau social et une plateforme. Twitch est une plateforme de diffusion. C'est pas véritablement un réseau social au sens où on entend réseau social comme Facebook. Mais à ce titre-là, Instagram aussi, c'est beaucoup une plateforme de diffusion, TikTok aussi. Du coup, la frontière, elle est floue, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que Reddit, c'est un réseau social? Ouais, bah moi, Reddit, j'appelle ça un forum. Mais après, j'ai mon vocabulaire à moi, peut-être que c'est pas le bon, bizarre de couper les jeunes des autres. Bah, comment te dire, si, quand même. Sur ce qui est de la protection, ça me paraît pas délirant, tu vois. Si tu peux être ami, c'est un réseau social. Ok. Ouais, si tu veux, si tu veux. Oui, donc du coup, Instagram est un réseau social. Alors que Twitch n'est pas un réseau social. YouTube n'est pas un réseau social. Est-ce que le Nintendo Online, c'est un réseau social? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as raison, c'est une bonne question. T'es pas notre ami, Jean? Mais si, je suis votre ami. Dans une relation parasociale. Est-ce que mon serveur communautaire Minecraft, c'est un réseau social? C'est vrai, ça? Est-ce qu'un serveur Minecraft, c'est un réseau social? Ça dépend du serveur, je suppose. Alors, la définition juridique, c'est un réseau social est une plateforme accessible via une connexion Internet qui permet aux internautes de créer un compte personnel via une application ou un site web et de partager du contenu avec sa communauté constituée d'autres internautes qui sont abonnés ou connectés à cette page. Un réseau social est une plateforme accessible via une connexion Internet qui permet aux internautes de créer un compte personnel via une application ou un site web et de partager du contenu avec sa communauté constituée d'autres internautes qui sont abonnés ou connectés à cette page. Bah, Twitch. Twitch, c'est 100% réseau social. Ouais, ouais. YouTube aussi. Donc un groupe Steam, c'est un réseau social. Ouais, Steam est un réseau social. Fini le porno, fini les couteaux, fini les réseaux sociaux. C'est ça. Les jeunes, ils auront plus rien à faire. C'est plus compliqué que ça. Comme l'a montré une psy hier dans la commission d'enquête, beaucoup de jeunes sur TikTok s'enferment dans une bulle thématique à cause de l'algorithme et considèrent les contenus comme une forme de sociabilité en partageant leurs ressentis au sein de cette bulle. Ouais, je comprends. Non, oui, effectivement, ça décrit assez bien le comportement que tu peux avoir sur les réseaux sociaux avec le phénomène de bulle. Phénomène de bulle qui est un phénomène très 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 puissant. Bah, la preuve, tu vois, on en parlait tout à l'heure, là, les créateurs de contenu, les influenceurs qui ont été auditionnés hier par les commissions d'enquête, moi, la plupart d'entre eux, j'en ai jamais entendu parler. C'est bien la preuve que je suis dans une bulle. Que eux aussi sont sans doute dans une bulle, d'ailleurs, mais qu'en tout cas, nos deux bulles ne coïncident pas du tout, quoi. D'ailleurs, je suis sûr que eux n'ont jamais entendu parler de moi. Et ils ont le droit, hein, c'est pas grave. Mais ouais, une chambre d'écho, ouais. Alex Hitchen qui a raccroché sa cam lors de la commission TikTok, la masterclass. Ah, c'est une masterclass maintenant de ne pas répondre à une commission d'enquête? C'était pas vous il y a 2 semaines qui disiez que Pierre-Edouard Sterrin il devait absolument répondre à la commission d'enquête? Ah, ou alors c'est à géométrie variable. J'arrive parfois à aller dans d'autres bulles, genre soutien de Javier Milei. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Oh, la vache. Qu'est-ce que tu penses de l'arrogance du président de l'Assemblée? De quoi tu parles? Parce qu'il n'y a pas de président de l'Assemblée, il y a une présidente qui s'appelle Yael Braun-Pivet. Tu fais référence au président de la commission d'enquête? Moi, je pense qu'il peut se permettre d'être arrogant. Il est président d'une commission d'enquête parlementaire. C'est pas rien. C'est comme un juge dans un tribunal. L'arrogance, c'est pas l'arrogance, c'est de l'autorité. C'est pas la même chose. C'est une commission d'enquête parlementaire, hein. C'est pas un groupe de parole. Quand tu déposes devant une commission d'enquête, le président de la commission d'enquête, il a le droit de faire preuve d'autorité. Moi, ça me choque pas. C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat non plus, t'as raison. C'est l'autorité de l'Assemblée nationale, le contrôle par la voix des élus du peuple. Exactement. C'est exactement le principe d'une commission d'enquête parlementaire. Ce sont des élus du peuple, avec toute la gravité que ça a, qui effectuent une mission de contrôle, une mission d'enquête en l'occurrence, sur d'éventuels dérèglements des pouvoirs publics. Ou des pouvoirs privés d'ailleurs, ça marche sur les deux. Vous avez déjà vu les commissions d'enquête aux États-Unis ou pas? Vous avez déjà vu comment ça se passe aux États-Unis? Alors là, quand on parle d'arrogance, c'est autrement plus vénère du côté américain que du côté français. Celle de Zuckerberg est célèbre pour ça. Oui, l'audition de Mark Zuckerberg, bien sûr. Zuckerberg, évidemment. Patron d'un réseau social qui s'en est pris plein la gueule par la commission. Je trouve ça assez symptomatique du peu de considération que les gens ont de la politique, ce qui s'est passé en commission parlementaire. Ouais, attends, faut doser, faut doser. C'est pas un manque de considération. La plupart des gens ont un manque d'information. Il y a énormément de gens qui ne savent tout simplement pas ce que c'est qu'une commission parlementaire. Hein. Déjà, commission, ils savent pas ce que c'est. Commission d'enquête, encore moins. Donc, voilà, c'est pas un manque de considération pour la politique. Est-ce que c'est possible, au vu de la commission d'enquête, d'avoir justement des propositions de loi sur la responsabilité pénale des influenceurs en considération de leurs propos ou de la non-modération du contenu? Ou alors on va rester sur une simple contrôle de la plateforme? C'est une bonne question que tu poses, j'en sais rien. Ça, il faudra voir avec le rapporteur ou les rapporteurs de la commission d'enquête qui feront des préconisations. Et peut-être que ça ira jusqu'au dépôt d'une proposition de loi, c'est possible. Est-ce que le président peut être interrogé? Le président de la République, non. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, le président n'est pas sous le contrôle de l'Assemblée. Je comprends rien à ce qui se passe, perso. Jean, comment tu résumerais les faits en question à quelqu'un qui n'a jamais eu aucun affect ou intérêt envers ce genre d'affaires. C'est pas vraiment une affaire, c'est juste que l'Assemblée nationale fait son boulot, et le boulot de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler comment ça se passe dans le pays, comment les choses fonctionnent dans le pays, et si jamais il y a des dysfonctionnements, comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et là, en l'occurrence, c'est une commission d'enquête parlementaire qui a interrogé, a auditionné créateurs de contenu pour s'interroger sur les dérives qui existent sur les réseaux sociaux, et notamment sur la plateforme TikTok. Dans le but d'écrire un rapport parlementaire, et sur la base des conclusions de ce rapport, il pourra y avoir une nouvelle loi. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. C'est aussi simple que ça. Et des commissions d'enquête, il y en a sur plein de sujets, assez souvent. Est-ce que les lois et les limitations de la presse traditionnelle s'appliquent aux influenceurs sur Internet? Bien sûr. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'applique pas seulement à la presse traditionnelle, elle s'applique à tout le monde. L'interdiction de l'incitation à la haine, l'interdiction de l'injure et de la diffamation, l'interdiction de la discrimination, etc. Ça, ce sont des interdictions qui sont portées dans la loi et qui s'appliquent à tous les citoyens. Que tu sois créateur de contenu sur Internet, journaliste, simple citoyen. Qu'en est-il de ce qui est dit devant la commission d'enquête? Est-ce qu'il peut y avoir des recours judiciaires par la suite? Car il y a eu des propos limite hier. Oui, la justice peut se saisir, évidemment, elle a le droit. La justice peut tout à fait se saisir du contenu d'une commission d'enquête pour ouvrir une enquête. C'est tout à fait possible. Intéressant l'article du Monde sur Macron et la reconnaissance de la Palestine, vu ce que tu te posais la question hier. J'ai pas lu l'article du Monde, il est sorti ce matin. Faut que je le lise. Non, ce matin, j'ai lu des trucs sur ce qui se passe aux États-Unis, là, les violences. Et le déploiement de la garde nationale en Californie, du côté de Los Angeles, contre les manifestations qui s'opposent à l'administration anti-immigration des États-Unis. Donc non, j'ai pas encore lu l'article du Monde, je lirai ça cet après-midi. C'est une dinguerie ce qui se passe là-bas, genre dans les manifs, j'ai pas suivi. Non, ça n'a pas l'air d'être une dinguerie tant que ça, hein. Par rapport aux émeutes qu'on a connues à Los Angeles après la mort de George Floyd, au moment de Black Lives Matter, etc. C'est des manifestations, quoi. C'est des manifestations. Alors, il y a des débordements, évidemment. Il y a des heurts contre les forces de l'ordre, il y a des voitures qui brûlent, mais on est loin des pillages qu'on avait connus. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus disproportionné de la part de Donald Trump d'envoyer la garde nationale, plus des militaires en plus, des Marines, dans une situation qui visiblement ne le nécessite pas particulièrement, quoi. Après, il y a une passe d'armes actuellement entre Trump et les autorités locales californiennes sur la nécessité ou non de déployer la garde nationale. Donc c'est, on est dans une opération de communication de la part de Donald Trump assez évidente qui va lui faire gagner probablement quelques points dans les sondages dans le reste du pays. Le retour à l'ordre, tout ça, tout ça. Apparemment, c'est très localisé dans le centre de Los Angeles pour l'instant. La réaction de Trump est totalement disproportionnée, oui. Oui, non, il y a une disproportion manifeste, hein, entre la situation sur le terrain et l'envoi des troupes. Et l'envoi des troupes fédérales qui a été décidé par Donald Trump, quoi. Cet envoi de troupes est un contre-feu médiatique évident pour engloutir les polémiques qui montaient contre Trump sur son implication dans l'affaire Epstein, dévoilée la semaine auparavant par Musk. Ah, tu crois? Je sais pas. Je pense qu'il l'aurait fait quand même. La prochaine fois en France, ça va envoyer le Charles de Gaulle sur le port de Marseille tant qu'on y est. Il cherche peut-être à faire escalader la situation pour montrer les gros bras. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un coup de menton. C'est un coup de menton de Donald Trump qui essaye de montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il a de l'autorité par opposition à la Californie. La Californie, je vous rappelle, elle est détestée, hein, par les. Par les républicains américains. La Californie, c'est le symbole de la gauche morale, favorable à l'immigration, etc. C'est tout ce que déteste l'Amérique profonde qui vote Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça met aussi en avant le gouverneur californien qui s'appelle Gavin Newsom, Gavin Newsom, qui est pressenti pour être candidat démocrate pour les élections américaines en 2028. Donc il y a aussi un conflit entre Trump et Newsom qui est assez évident, quoi. Pardon. Les républicains ne sont pas normalement pour le fait que le gouvernement n'interfère pas dans l'organisation des différents États. Si, 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 carrément. Si, mais tu sais, Donald Trump, il n'est pas à une seule contradiction près, hein. Ça l'empêche pas. Ça l'empêche pas du tout même. Il se sent autorisé, hein. Là, il va très très bien. Je sais pas ce que cherche réellement Trump et je pense que t'as pas la réponse, mais est-ce qu'on pourrait penser qu'à force de faire des trucs comme ça, il pourrait y avoir une deuxième sécession aux États-Unis? C'est une bonne question que tu poses. J'en sais rien. Effectivement, comme tu le dis, j'ai pas la réponse, mais ça, c'est un peu la crainte. La nouvelle sécession aux États-Unis, elle avait été proposée par des républicains à la base, hein. Séparer les blue states des red states. Les États bleus, c'est les États démocrates. Les États rouges, c'est les États républicains. Et l'idée, c'était d'avoir une sécession entre les deux et que chacun vive sa vie de son côté, quoi. Et ça, c'est une proposition qui avait été faite par Marjorie Taylor Greene, je me souviens, qui est une représentante républicaine proche de Trump, parmi les plus radicales. La Californie est déjà quasiment un pays dans le pays. L'État fédéral est vraiment mal vu par la population là-bas, avec le sentiment de « on est les premiers de la classe, venez pas nous saouler ». C'est vrai que la Californie est un État extrêmement puissant des États-Unis, d'une puissance économique. Économiquement, la Californie, c'est un État surpuissant aux États-Unis. À quel point c'est envisageable aujourd'hui que les États-Unis se redivisent? J'en sais rien, c'est pas. J'aurais du mal à te donner une échelle. Ça reste peu probable, on va pas se mentir. Il faut pas parler de sécession là tout de suite en disant que ça y est, les États-Unis vont sécessionner juste parce que Donald Trump a envoyé la garde nationale en Californie pour quelques manifestations à Los Angeles. D'ailleurs, je crois que la Constitution ne permet pas la sécession. Ah bah non, évidemment. Évidemment que non, la Constitution américaine ne permet pas la sécession. Mais bon, une sécession, ça se fait de fait. Ça s'affranchit des règles constitutionnelles. C'est archi faible, ça fait des années que ça parle de sécession, mais ça bouge pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, on en entend parler comme ça. Même moi, là, je suis en train d'en parler comme si j'accréditais l'idée, mais en réalité, il y a très 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 peu de chances que ça arrive. Donc il faut pas surévaluer le risque. Salut Jean, où envoyer des dons pour ta campagne aux prochaines présidentielles? Ma campagne à moi? Tu peux t'abonner déjà à ma chaîne Twitch. Ce sera un soutien pour ma campagne. Je te remercie. Merci. Et à ce propos, d'ailleurs, je remercie Racco, merci Makikar, merci Jakara, merci le syndicat, merci Hermine, merci encore du sel, merci Christobis, Domingo League, Cactus qui pique, merci beaucoup pour vos resubs. Après, le gouffre entre les deux populations devient abyssal. Oui, perçu par nous en Europe, peut-être. Mais je ne sais pas ce que c'est sur place, j'en sais rien, je ne saurais pas dire. Il y a peut-être aussi énormément d'Américains qui sont entre les deux, tu vois, qui sont dans le ventre mou. Et qui sont ni républicains ni démocrates, qui sont à cheval entre les deux, qui ne savent pas trop. Il y a peut-être beaucoup d'indécis, tu vois. Dans certains États aussi, peut-être. C'est peut-être pas partout pareil. Après, Trump a gagné avec une majorité confortable. Oui, absolument. Trump a gagné avec une majorité confortable, ça c'est vrai. Après, Trump, il avait perdu contre Biden avec une majorité confortable aussi. Enfin, je veux dire, Biden avait une majorité confortable, si je dis pas de bêtises. Le vote populaire a été remporté par Biden. Depuis le deuxième mandat de Trump, les lignes ont dû bouger. Ce qui fait voter, c'est pas la peur des trans, mais l'économie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les enjeux économiques et sociaux sont assez primordiaux aux États-Unis dans le vote et assez déterminants dans le vote à l'élection présidentielle, ouais. Ouais. J'ai vu des graphiques sur la répartition démocrate-républicain dans le temps où on voyait une polarisation, mais elle restait limitée. Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, ce genre de graphique. J'ai le souvenir d'en avoir vu, je sais plus très bien où, mais j'en ai vu passer, ouais. Confortable pour les grands électeurs, oui, mais en soi, c'était une différence de seulement 2 millions de votes sur les 160 millions aux États-Unis. La victoire de Biden contre Trump? Ok, d'accord. Moi, je croyais que c'était plus que ça. J'avais en mémoire que le vote populaire avait été remporté confortablement par Donald Trump, par Joe Biden, pardon. Bon, en tout cas, y a pas, y a, c'est clair que Donald Trump a été réélu président avec une large majorité, ça c'est vrai. Trump contre Harris. Ouais, Trump contre Harris. Ah non, tu me parlais de Trump contre Harris? Ah, il n'a pas tant gagné le vote populaire que ça, c'est ça que tu veux dire en fait. Contrairement à ce que je dis, contre Kamala Harris, Donald Trump a remporté le vote populaire de seulement 2 millions de votes sur 160 millions. Ok. Ouais, donc c'est pas énorme en fait. Est-ce que les démocrates sont en mesure de remporter à nouveau... des élections présidentielles, je sais pas. Faut pas écouter Donald Trump quand il déclare quelque chose, il utilise que des superlatifs. Ouais, je sais, c'est très très chiant. La manière qu'a Donald Trump de parler en utilisant que des superlatifs. Il parle de Big Beautiful Bill en parlant de sa loi là sur les impôts. Big Beautiful Bill. Bill, ça veut dire proposition de loi aux États-Unis. Great job, amazing job. Je pense que c'est la personne la plus insupportable à écouter en dehors même de tout avis politique. Je suis d'accord avec toi. C'est très très dur à écouter Donald Trump. C'est extrêmement pénible. Après, on n'est pas habitué, on est français, on est. C'est peut-être un truc un peu différent, mais. C'est son registre d'homme d'affaires aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, hein. À regarder aussi, c'est douloureux. Oui. À regarder aussi, c'est douloureux. La trumpisation du discours politique est clairement en cours. Quoi, en France? Non. J'ai pas l'impression que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jordan Bardella, fassent du Trump dans leur manière de s'exprimer. Enfin, on n'a pas besoin d'aller chercher Trump pour avoir des caricatures. Regardez Retailleau, Darmanin, c'est plutôt du sarkozysme ce qu'ils font. C'est très Sarkozy plus que Trump. Peut-être que Sarkozy était un prédécesseur de Trump, mais. Mais en vrai, c'est pas nouveau, quoi. Ciotti, il est en full Trumpisme, mais ça fait déjà un an. Ça en fait déjà un, pardon. Ouais, Ciotti, mais Ciotti, il est tout petit, pardon, mais politiquement, Éric Ciotti, c'est pas un leader national à même de terroriser ses concurrents pour une élection présidentielle. Est-ce que tu as regardé les auditions de la commission TikTok? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai vu des extraits seulement, j'ai pas regardé en longueur les auditions de la commission TikTok. J'ai vu des extraits, j'ai vu évidemment Alexis Chung qui décide de déconnecter sa caméra parce qu'il a plus envie de répondre, sans se rendre compte probablement de là où il était, c'est-à-dire une commission d'enquête parlementaire, et on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Les autres, Nasdas. Adé Laurent, etc. J'ai pas, je vous avoue que j'ai pas regardé, j'ai vu des extraits passer seulement. Mais j'ai vu que c'était diffusé sur Twitch. J'ai vu que Zach Nani il avait fait une diffusion sur Twitch pour Nasdas. Le niveau est exécrable, c'est-à-dire le niveau de qui? Des auditionnés ou de la commission d'enquête? Est-ce qu'il risque quelque chose pour être parti comme ça? Oui, il risque effectivement un délit de non-présentation devant une commission d'enquête. C'est 2 ans de prison, je crois, et je ne sais plus combien de milliers d'euros d'amende. C'est 75 000. C'est 75 000 ou 7 500 euros d'amende qui sont encourus. Bon, ça c'est ce qu'il risque. C'est 7 500 euros d'amende. Ouais, c'est 7 500, ok, merci. C'est pas la même chose de parjurer devant une commission d'enquête et de refuser de s'y présenter. Il disait que sa présentation n'était pas obligatoire, ce serait faux. À partir du moment où tu as été convoqué devant une commission d'enquête, ta présence est obligatoire. J'ai regardé les 5 premières minutes de l'entretien d'Hugo Décrypte, mais ennui. Oui, j'ai pas regardé non plus Hugo Décrypte. Je vous avoue que j'ai pas regardé. Je suis complètement passé à côté de cette commission d'enquête. Mais après, moi, je suis plus habitué, sans doute, que la plupart du public qui découvre ce que c'est qu'une commission d'enquête, comment ça fonctionne, c'est quoi le ton dans une commission d'enquête. Le fait que Khaled Sitchen décide de couper sa caméra, effectivement, ça peut être surprenant. pour des gens, je pense qu'Alexis Tchon, par exemple, lui-même, à titre personnel, ne connaît pas très bien la politique et surtout le pouvoir d'une commission d'enquête parlementaire et l'importance d'une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que tu penses qu'ils vont appliquer la sanction? J'en sais rien. Alors ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout si la commission d'enquête va vouloir transmettre au procureur de la République le dossier en lui demandant d'ouvrir une enquête. Quand c'est comme ça, on reconvoque et on envoie les gendarmes pour le chercher. Non, il n'y a pas besoin d'envoyer les gendarmes, on reconvoque. On peut potentiellement reconvoquer quelqu'un qui peut accepter ou refuser... Enfin, qui peut pas refuser, en principe. S'il refuse, il commet un délit à nouveau. Mais a priori, il va être reconvoqué. Ils vont pas tout de suite lui envoyer le procureur aux trousses. Ils vont reconvoquer Alexis Tchon, et il a intérêt à se présenter et à répondre aux questions. C'est comme le fondateur de Smartbox, il me semble, convoqué plusieurs fois, jamais venu. Pierre-Édouard Sterrin a été convoqué deux fois, a refusé deux fois de se présenter devant une commission d'enquête, et il encourt donc 2 ans d'amende et 7 500 € d'amende. Après, on verra si la justice décide d'instruire le dossier, on verra s'il est condamné en première instance, s'il fait appel en deuxième instance, etc. Ça va prendre du temps, hein. Le procureur a refusé de poursuivre pour ce terrain. Ah bon? Le procureur a refusé de poursuivre pour ce terrain? Pourquoi? Il a ouvert une enquête, le procureur? Il a auditionné ce terrain pour savoir quelles étaient ses raisons? Parce que ce terrain avait mis en avant des problèmes de sécurité, qui visiblement étaient superflus d'après ce que disait le rapporteur Antoine Léaumont. Je vous invite à regarder l'émission Backseat de la semaine dernière. On a interviewé Antoine Léaumont, le rapporteur de la commission en question, qui s'occupe de l'organisation des élections. Les redifs sont sub only. Les redifs de Backseat? Non, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube qui s'appelle Backseat. Je crois qu'il confond avec Alexis Kohler. Ah, c'est peut-être probablement plus Alexis Kohler, oui. Qui avait refusé de se présenter au nom de la séparation des pouvoirs, étant secrétaire général de l'Élysée. Ça va parler de quoi aujourd'hui les QAG? Très bonne question que tu poses. Quels vont être les sujets des questions qui vont être posées aujourd'hui aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on va probablement avoir de nouvelles questions sur la flottille pour la liberté qui s'est rendue à Gaza, qui a été arraisonnée dans les eaux internationales par les forces navales israéliennes. 4 membres, dont Greta Thunberg, ont accepté de signer un document reconnaissant qu'elles étaient entrées illégalement sur le territoire israélien et ont été expulsées. Les autres membres d'équipage sont toujours retenus prisonniers en Israël dans l'attente de leur jugement et de leur probable expulsion. Et parmi ces prisonniers, il y a Rima Hassan, l'eurodéputée France Insoumise. Greta dit n'avoir rien signé. Ah bon? Greta dit n'avoir rien signé? Mais pourquoi est-ce qu'elle a été libérée plus tôt alors? Ils savent pas? Son âge? Bon, je vois pas ce que ça a à voir. Donc, il y aura peut-être une question au gouvernement sur ce sujet. Il y a d'autres sujets dans l'actualité. Il y a d'autres sujets dans l'actualité qui pourraient faire l'objet d'une commission d'enquête. Enfin, qui pourraient faire, pardon, l'objet d'une question au gouvernement. On a entendu hier on a beaucoup parlé hier de la MaPrimeRénov', qui va être rabotée en grande partie par le gouvernement, qui parle notamment de beaucoup de fraude à l'utilisation de cette prime. Je vous rappelle que MaPrimeRénov' est une prime qui permet de participer au financement de travaux de rénovation et d'isolation pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. C'est un dispositif incitatif très important sur lequel repose une bonne partie de l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du logement, du bâtiment. La commission d'enquête sur les TikTokers, je vois pas ce que les députés pourraient avoir à demander au gouvernement sur le sujet. C'est un travail interne à l'Assemblée nationale, ça ne concerne pas le gouvernement. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une question au gouvernement sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet d'actu qui pourrait faire l'objet d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale? Sûrement une question aussi sur la proposition de Bayrou d'interdire les couteaux aux mineurs. Ouais, on en a parlé hier suite au drame de l'assassinat d'une surveillante dans un collège de la Haute-Marne. On a parlé des couteaux et de l'interdiction aux mineurs d'avoir des couteaux. Le Premier ministre en personne, François Bayrou, s'est exprimé hier sur ce sujet. Il y aura peut-être une nouvelle question aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Il y a une manif des archéologues demain? Ah bon? D'accord, je savais pas. L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Ouais, un peu dans la même veine. Un peu dans la même veine. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, que Emmanuel Macron a annoncé vouloir mettre en place en France, si d'aventure l'Union européenne ne le faisait pas elle-même. Soit l'Union européenne interdit les réseaux sociaux pour les mineurs, soit c'est la France qui le fera toute seule, sans attendre l'Europe. Les archéologues manifestent contre le fait que le gouvernement veut supprimer les fouilles préventives lors des travaux. Ah, dans la loi de simplification. Pour booster l'activité du bâtiment. C'est l'archéologie préventive, ouais. J'avais entendu parler de ça, ouais, effectivement. Dans le projet de loi de simplification, il y aura moins d'archéologie préventive. L'archéologie préventive, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fouilles qui sont organisées avant des travaux pour vérifier que là où on va construire un bâtiment, il n'y a pas un site archéologique d'intérêt sur lequel il faudrait faire davantage de fouilles. Je vulgarise à max, hein, mais vous avez l'idée. Enfin, la fin de ces fouilles préventives. Ah, bah il y en a qui s'en réjouissent, visiblement. Merci pour les 5 subs offerts au chat. Denise Hiver, merci beaucoup.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, c'est très généreux, ces 5 subs offerts au chat. Et j'en profite pour remercier Neros, Blooby, Albanit, Rako EU, Makikar. Hop. Merci beaucoup. Alors que la séance va commencer incessamment sous peu à l'Assemblée nationale. Que peut-on tirer des récentes commissions d'enquête sur les personnalités des réseaux sociaux par l'Assemblée nationale ? Rien pour l'instant, c'est le travail des commissions d'enquête que justement d'en tirer quelque chose. Donc il faudra attendre le rapport de la commission d'enquête qui tirera des conclusions sur les auditions qui ont été menées. Et dans le rapport, il y aura des préconisations, des recommandations. Et on va pas tarder à rejoindre l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, alors que c'est Naïma Mouchou, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Albanite, pour les 5 subs offerts au chat, c'est très généreux. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou, qui va présider la séance aujourd'hui.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question sera posée par Monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR.
Alexandre Allégret-Pilot pour la première question.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il faut une meilleure régulation de la vente d'armes blanches. Interdire les couteaux, les machettes, les haches ne réglera rien. Voici pourtant votre préconisation après qu'un adolescent de 14 ans a poignardé à mort une surveillante de collège. Votre prochaine recommandation pour stopper la violence juvénile sera-t-elle de remplacer nos couverts par des baguettes ? Interdire les voitures pour lutter contre les refus d'obtempérer ? Élargir les trottoirs pour lutter contre le harcèlement de rue ? Interdire l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue ? Ce sont tous ces petits renoncements qui font la grande lâcheté de ce gouvernement. Comme dans beaucoup de nos campagnes, je fais partie de ceux qui ont souvent un opinel dans leur sac pour couper une corde ou préparer un casse-croûte dans les Cévennes. Le problème, ce n'est pas le couteau. C'est la main qui porte le coup. C'est la barbarie qui s'empare des âmes et c'est le vide qui lui répond. C'est cette jeunesse totalement abandonnée par un État complaisant et manifestement perdu. Dans une société sans verticalité, sans figure d'autorité, où tout a été sapé par le laxisme, les actes les plus violents explosent chez les adolescents, notamment chez les garçons, avec 42 homicides en 2022. Hier encore, une mère a été enlevée à son enfant. 5000 homicides et tentatives d'homicide chaque année. Emmanuel Macron détient ce triste record, faisant de la France un des pays les plus dangereux d'Europe. Et pendant que l'État dégaine des éléments de langage, la barbarie dégaine une lame et tue. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour faire exécuter les lois d'Éric Ciotti, votées mais jamais appliquées par les gouvernements au long des Macron depuis 2022 ? Allez-vous réactiver la loi de 2011, instaurant un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants ?
Ah ouais.
Allez-vous supprimer les allocations familiales pour les familles défaillantes ? Les Français veulent de la fermeté
du... Alexandre Allégret-Pilot, il est député du Gard, du côté d'Alès. Il a 36 ans, il est haut fonctionnaire auprès du ministère des Finances, chargé des entreprises en difficulté. Et il pose une question sur l'interdiction des couteaux pour les mineurs. Il n'a pas l'air pour l'interdiction des couteaux. Il préfère l'encadrement militaire de la jeunesse délinquante. On écoute la réponse du ministre de l'Intérieur.
Madame, messieurs les députés, monsieur...
Ah non, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.
Pilot, peut-être, pour répondre à votre question, vous donner d'abord quelques éléments... statistiques pour reconnaître que la banalisation du port et l'usage de l'arme blanche chez les mineurs est devenue effectivement extrêmement prégnante et le drame d'hier nous l'a encore rappelé. Mais cette banalisation s'accompagne aussi d'une évolution de la délinquance des mineurs. La délinquance des jeunes a changé de visage, elle est à la fois plus radicale, je pense notamment à la radicalisation de la violence liée au trafic, mais aussi beaucoup plus diffuse. Et effectivement, si entre 2016 et 2024, la délinquance a eu plutôt tendance à rester stable, elle a augmenté s'agissant des actes les plus violents. C'est-à-dire que l'intensité est devenue beaucoup plus forte. Le nombre des mineurs de 13 à 17 ans qui ont été mis en cause pour homicide, je parle bien pour homicide, est ainsi passé de 39 à 119, soit la plus forte progression, toutes classes d'âge confondues. Dans 57% des homicides commis par des mineurs, l'arme utilisée est une arme blanche. Alors, ceci n'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est simplement pour constater objectivement la situation et qu'il est effectivement absolument nécessaire que l'on retravaille sur notre capacité à détecter les signaux faibles le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, je voudrais indiquer qu'en travaillant sur le bas du spectre, la stratégie nationale de prévention de la délinquance qui sera bientôt rendue publique va permettre, dans le cadre de la prévention à tout le moins, d'avoir comme principe de réinstaurer l'autorité, l'autorité des parents, l'autorité du maire, l'autorité de la justice, de façon effectivement à ce que très tôt on puisse décider des mesures extrêmement efficaces, voire même contraignantes s'il le faut, de manière à ce que effectivement une personnalité dont on détecte des moments de déviance puisse être reprise en main. Ça, c'est absolument clair. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect pénal. Il y a déjà eu des évolutions législatives qui sont réelles, mais dont je pense...
Merci, monsieur le ministre.
Et je termine, madame la présidente, dont il faudra une exécution extrêmement rapide, mais je n'ai plus le temps d'aller plus loin.
C'est 2 minutes de temps de parole.
Monsieur Frédéric Falcone, pour le groupe Rassemblement National.
Frédéric Falcone, pour le RN.
Merci, madame la présidente.
Alors.
Chers collègues, monsieur le Premier ministre, le gouvernement vient d'annoncer la suspension de MaPrimeRénov. Ce dispositif, présenté hier comme le pilier de la rénovation énergétique, est un échec. Il est gangréné par une fraude massive. Tracfin évalue le détournement à environ 400 millions d'euros par an, soit 10% des fonds du dispositif. Mais MaPrimeRénov sert avant tout de prétexte pour justifier l'instauration de contraintes réglementaires. Vous avez fait du DPE, cet indicateur décrié pour son manque de fiabilité, le critère suprême de votre politique de rénovation. Vous avez piégé des millions de petits propriétaires dans une mécanique infernale. Baisse arbitraire de la valeur de leurs biens, baisse imposée des loyers, suspension des APL, injonction judiciaire à réaliser des travaux hors de prix, interdiction de louer. Face à cette politique kafkaïenne, les Français ne veulent plus être bailleurs, préférant retirer massivement leurs biens du marché locatif. On enregistre une baisse de près de 75% des annonces en 3 ans à Paris et 5 millions de logements sont concernés. Vous avez poussé la logique bureaucratique jusqu'à imposer aux copropriétés la mise en place obligatoire d'un plan pluriannuel de travaux, une contrainte excessive qui leur coûte 10 000 euros. Depuis 2022, le Rassemblement national alerte sur cette dérive. Nous réclamons la levée immédiate de l'interdiction de louer fondée sur la note DPE et un changement de cap pour une rénovation incitative.
L'interdiction de louer fondée sur la note DPE, c'est l'interdiction de louer des passoires thermiques.
Propriété privée et réalité et adaptée aux réalités économiques des Français. Je rappelle aux fanatiques du climat que l'immobilier résidentiel représente à peine 12% des émissions de CO2 en France, laquelle n'émet que 0,9% des émissions mondiales. En 30 ans, pour un parc immobilier qui a augmenté de 50% en surface, on consomme moins d'énergie qu'en 1990. Chers collègues, nous sommes les plus vertueux d'Europe. Avec la suspension de MaPrimeRénov, le Rassemblement national demande la levée immédiate des contraintes liées au DPE et la fin du socialo-macronisme qui prélève des taxes et des impôts pour distribuer des chèques.
Le socialo-macronisme dénoncé par Frédéric Falcone, 38 ans, député de l'Aude du côté de Narbonne. Il a été consultant dans l'informatique avant de devenir conseiller en investissement immobilier.
Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Falcon, face aux générations futures, ce n'est pas le populisme qui doit s'exprimer pour savoir comment le gouvernement doit conduire des politiques écologiques ambitieuses qui protègent à la fois nos populations, qui leur permettent de favoriser toutes les transitions et qui surtout préserveront nos intérêts économiques et notre souveraineté. Savez-vous que 80% des emplois en France dépendent directement ou indirectement des espaces naturels ? Voulez-vous que demain, dans le constat accablant que vous voulez présenter, voulez-vous que demain nous craignions de boire de l'eau au robinet parce qu'elle est polluée? S'agissant de MaPrimeRénov, le gouvernement s'est exprimé pour expliquer que dès le mois de septembre prochain, nous pourrons reprendre le travail. De la même manière, un texte sur le DPE et notamment les logements classés G seront présentés d'ici la fin de cette session et vous le savez absolument. Aujourd'hui, plutôt qu'essayer de surfer sur les craintes, les mécontentements ou les contraintes que peut représenter la transition écologique, vous devriez accompagner les efforts des Françaises et des Français, les efforts du gouvernement, la mobilisation d'argent public qui permet, pas à pas, de progresser sur le chemin de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Nous avons cette fierté. Nous avons fait baisser de 10% les émissions de gaz à effet de serre. À aucun moment, sur aucun texte, en effet, votre groupe politique n'a soutenu cette politique. Mais au regard des décennies qui viennent, au regard des besoins de la France, pour que demain nous ne soyons plus dépendants d'énergies fossiles qui viennent de l'extérieur, et pour que les Françaises et les Français puissent enfin revivre en confiance dans une société protégée des évolutions du dérèglement climatique, merci. Nous poursuivrons sur cette voie.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Falcone.
Oui, je prends les Français à témoin et nous leur disons qu'après les ZFE et le ZAN, nous allons supprimer et abolir les contraintes DPE. Je vous remercie.
La suppression des contraintes de diagnostic de performance énergétique proposée sous les applaudissements par le Rassemblement national.
Merci. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Déploiement de la planification écologique, généralisation des ZFE, investissement inédit dans la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov, interdiction des locations de passoires thermiques, réouverture des petites lignes de train, leasing électrique, loi AGEC, loi industrie verte, produits bio et circuits courts dans la restauration collective, mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique, ZAN, accélération de la production des énergies renouvelables, relance du programme nucléaire. Depuis 8 ans, sur l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, nous avons massivement agi en matière d'écologie pour endiguer le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Cette semaine encore, la France a su mobiliser à l'UNOC des centaines de pays du monde entier pour accentuer notre effort et notre action en matière de protection des océans. Et cette politique marche. Nous avons, depuis 2017, quadruplé la baisse du rythme des émissions de CO2. Malheureusement, depuis plusieurs mois, les populistes et démagos de tous bords détricotent une à une ces mesures indispensables à notre transition écologique. Il y a 8 jours, les climato-sceptiques du Rassemblement national se sont alliés avec les climato-tchéguevaristes de la France insoumise pour abroger les ZFE en faisant fi de toute la recherche scientifique, de tous les experts, mais surtout des 48 000 décès par an en France que vous avez ignorés en votant cette loi. Monsieur le Premier ministre, les mêmes qui criaient hier au manque d'ambition écologique et parlaient de mesurettes pleurnichent aujourd'hui en prétextant que ces dispositions seraient trop difficiles à mettre en place.
Pierre Cazeneuve, il a 29 ans, il est député des Hauts-de-Seine du côté de Rueil-Malmaison. Il a été chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il a bossé à l'Élysée pendant plusieurs années avant de devenir député et il pose une question sur la politique écologique et climatique du gouvernement.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations.
Et on écoute à nouveau Patrick Mignola pour lui répondre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cazeneuve, merci. Merci parce que face aux enjeux du dérèglement climatique, nous choisissons en effet la vérité, pas l'émotion, pas les injonctions. Nous assumons un cap clair, pas un alignement opportuniste. Depuis 2017, nous avons avancé, jamais assez vite, sans doute, mais dans le bon sens, clairement. Moins 9,6% d'émissions de gaz à effet de serre, moins 5,8% rien qu'en 2023, la plus forte baisse enregistrée depuis 2015. Moins 4,1% d'empreinte carbone pour les Français l'an dernier. Ces chiffres ne sont pas des trophées, ce sont des jalons. Et ils montrent que nos choix portent leurs fruits. Sur la rénovation des logements, sur le leasing social, le soutien à l'agriculture durable, la décarbonation de l'industrie. Au-delà de l'atténuation, nous préparons aussi notre pays à un scénario de résilience à plus 4 degrés avec un plan d'adaptation au changement climatique. Encore hier à Nice, le président de la République et le gouvernement ont détaillé des annonces historiques pour protéger nos océans en interdisant les activités qui dégradent les zones marines vulnérables. Au total, près de 15% des eaux françaises seront classées en protection forte, soit 3 fois plus qu'avant, et plus de 10% des eaux françaises seront placées en protection stricte, c'est-à-dire sans aucune activité humaine. Cela concerne notamment 900 000 km² annoncés par la Polynésie ou la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Ces mesures sont un signal clair supplémentaire. La France assume son leadership mondial et pousse d'autres pays à suivre. Mais il ne suffit pas d'avoir eu raison une fois, il faut tenir bon, encore et toujours, et ensemble. Alors merci Monsieur le député pour votre parole claire et votre exigence. L'écologie n'est pas un confort, c'est une responsabilité et le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, la partage.
Alors, une petite échange d'amabilité entre le gouvernement et le Parlement, c'est pas tous les jours. Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis.
Monsieur le ministre, où êtes-vous ? Où est la France ? Mourir de faim ou mourir d'une balle ? Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire ? Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou ? Où êtes-vous ? Que faites-vous ? La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage. Une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part, c'est du jamais vu. 45 000 mails de soutien vous dérangent plus que le blocus illégal qu'il dénonce. Vous manquez à tous vos devoirs, légalement, moralement, diplomatiquement. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple ?
Mathilde Panot, elle a 36 ans, elle est députée du Val-de-Marne du côté de Vitry-sur-Seine. Elle a été cadre de l'association Voisins Malins, réseau d'entraide dans les quartiers populaires. Et elle pose une question sur la flottille de la liberté et le destin de son équipage. On écoute le Premier ministre qui va répondre comme c'est une chef de parti, comme c'est une chef de groupe qui a posé la question. C'est toujours le Premier ministre qui répond en personne.
Monsieur le Premier ministre à la parole.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Il y a 2 volets dans votre question. Le premier volet, c'est Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est inacceptable, intolérable et une souffrance, y compris pour ceux qui ont toujours défendu l'existence d'Israël. Et cette situation... La France est un des premiers États à l'avoir dénoncé et à travailler aujourd'hui à une réponse effective qui nous permettra d'avancer vers 2 États qui est le seul moyen d'obtenir la paix, la sécurité des uns et des autres. Mais on ne peut pas parler de Gaza sans parler du 7 octobre. On ne peut pas parler de Gaza sans parler de l'assaut et du pogrom que le Hamas a perpétré ce jour-là. Et je crois, pour vous dire le fond de ce que je pense, je crois que ceux qui ont lancé l'assaut du 7 octobre voulaient obtenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qu'ils prévoyaient, c'était le caractère inéluctable et inacceptable de ce pogrom, avec la réponse qui ne pouvait être dans leur esprit qu'une réponse extrêmement puissante et violente d'Israël. Car ce qu'ils voulaient obtenir, la vraie cible du Hamas le 7 octobre, c'était la possibilité de faire un jour la paix avec Israël, entre Israël et les Palestiniens, Israël et les pays arabes qui l'entourent. C'est donc le premier volet de la question. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu les faits qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël,
François Bayrou, qui est chahuté par les députés insoumis, très déçu de sa réponse.
Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne.
Merci, Monsieur le Premier ministre.
Et c'est laquelle ? La solution, c'est la solution à deux États ?
Madame la Présidente, 3 secondes.
Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur
Merci,
israélien
Madame
pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle.
Merci.
La libération immédiate et inconditionnelle.
La parole est... Ah, Monsieur le Premier ministre, allez-y.
Ah.
Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable, mais instrumentalisée.
Merci, Monsieur le Premier ministre.
Moment de tension, en tout cas, entre les insoumis. Mathilde Panot, rappelée à l'ordre par Naïma Moutchou.
La parole est à Madame Sophie Pontet pour le groupe socialiste et apparenté.
Et on enchaîne. Sophie Pontet pour les socialistes. Ah, les députés insoumis qui décident de quitter la séance de l'Assemblée nationale. Ils quittent l'hémicycle pour protester contre la réponse de François Bayrou. C'est un incident de séance au cours de cette séance de questions au gouvernement. Vous voyez la présidente Mathilde Panot qui décide de se lever et de quitter la séance.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur Delobu, mes chers collègues.
Alors, la perturbation de la séance continue. Les quatre colonnes, c'est une petite salle dans laquelle il y a les journalistes qui attendent les députés en sortie de séance.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
Le spectacle que nous sommes en train de donner. Merci de bien vouloir respecter le temps de parole de notre collègue Madame Pontet.
Est-ce que vous pouvez remettre à zéro Madame la Présidente
oui,
le time?
Absolument. Voilà.
Alors, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. CIDFF en danger est le titre d'une campagne nationale pour interpeller les médias et le grand public sur la situation des centres d'information des droits des femmes et des familles. Une mobilisation des CIDFF est prévue à compter du 23 juin avec fermeture au public pendant une semaine. Cette mobilisation est inédite. Elle intervient après des mois de discussions avec votre gouvernement afin d'obtenir l'enveloppe manquante à hauteur de 5,7 millions d'euros pour couvrir les conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont pourtant contractualisées sur le programme 137. De quoi parle-t-on ? Des moyens réels donnés à la politique d'égalité femmes-hommes. CIDFF en danger ? Ce sont les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. 140 féminicides en 2024. Ce sont les moyens pour agir en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ces moyens concernent la mise en œuvre des politiques publiques qui justifient l'agrément que donne l'État au CIDFF. Sans soutien, ce sont des suppressions de postes, des fermetures de permanences, de services dans nos territoires au détriment de nos populations et donc moins d'accompagnement pour celles et ceux qui attendent d'être protégés par l'État. Le retard de notification et de versement fragilise considérablement les associations.
Le CIDFF, pour ceux qui se posent la question, ce sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles qui font de l'accompagnement.
Unanimité, une mobilisation d'ampleur à la mesure de la gravité de la situation pour ce réseau. Monsieur le Premier ministre, l'État va-t-il apporter des réponses concrètes avant le 18 juin, date où le Conseil d'administration lancera cette mobilisation nationale ?
Sophie Pantel, 53 ans, députée de la Lozère. Elle a été chef de service à la direction départementale de la protection des populations, spécialiste des questions sociales.
Merci.
Qui pose une question sur les inquiétudes des CIDFF. On écoute Aurore Berger qui lui répond.
En effet, notre politique.
Ah.
Des formes de...
Ah.
Des formes de violence.
C'est bon. Non, c'est pas bon. Bougez pas.
Nous avons eu à augmenter, vous le savez, ce qu'on appelle la compensation Ségur, les travailleurs sociaux. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que nos travailleurs sociaux avaient besoin d'être considérés de la même manière que d'autres professions médico-sociales. Mais ça a évidemment posé des difficultés à un certain nombre de centres. C'est la raison pour laquelle le budget de mon ministère en 2025 a augmenté significativement avec une enveloppe dédiée de 7 millions d'euros, 7 millions d'euros votés à l'unanimité au Sénat, et qui a été conservé ensuite par le gouvernement, par le Premier ministre, dans le 49.3. Dans les jours qui viennent, les CIDF...
49.3, c'est le budget.
...versement permettant la compensation de la prime Ségur, non seulement au titre de la part de l'État, mais même sur la compensation totale du Ségur. Évidemment, nous devons nous engager pour garantir...
Ok, donc Aurore Berger, qui se veut rassurante, il y aura bel et bien un versement que vont toucher les CIDFF pour compenser la part Ségur. Ok.
La pérennité de ces postes qui sont... indispensable à partir du moment où nous voulons lutter efficacement contre toutes les formes de violences faites aux femmes, singulièrement, vous l'avez rappelé, la question des féminicides. Je rappelle ici que c'est un engagement qui ne dépend pas que d'un ministère seul ou des seuls pouvoirs publics, mais de toute la société pour qu'enfin l'éradication des violences faites aux femmes soit l'affaire de toute la République. Et je vous remercie.
Merci Madame la Ministre. Madame Pantel.
Madame la Ministre, je voulais vous remercier pour ces annonces là pour les CIDFF. Rappelez simplement que la politique d'égalité femmes-hommes, c'est un des trois piliers de l'Union européenne. C'est une politique qui s'impose à la France. C'est une politique qui est une chance pour la France. Et donc nous resterons vigilants.
Merci Madame Pantel. La parole est à Madame Anne-Laure Blin pour le groupe de la droite républicaine.
Anne-Laure Blin pour les Républicains.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques semaines, je vous interrogeais sur l'avenir des ZFE. Depuis, notre Assemblée a, par un vote clair et transpartisan, dit stop à cette écologie punitive qui fait bouillir nos territoires. Parce que sous cet acronyme barbare, ce n'est pas une simple question technique comme on le croit dans la technocratie parisienne coupée des réalités. C'est une mesure très concrète qui impacte la vie quotidienne de millions de Français pour qui la voiture n'est pas un luxe, mais bien une nécessité absolue. Pourtant, deux membres de votre gouvernement ont remis en cause le vote souverain de la représentation nationale. Les députés sont élus démocratiquement. Ils représentent le peuple français. Et votre gouvernement, lui, est nommé. Il est responsable devant l'Assemblée nationale et pas l'inverse. Monsieur le Premier ministre, les Français ne supportent plus cette politique du mépris que vous leur envoyez au visage. Alors si vous ne considérez pas les gueux, avez-vous oublié les gilets jaunes ? Se déplacer serait-il pour vous un tel luxe que ceux qui n'ont ni tramway, ni métro, ni piste cyclable seraient condamnés à ne pas pouvoir se rendre à la grande ville ? Vous me répondrez certainement qualité de l'air, mais connaissez-vous le coût social de cette mesure que vous générez chez nos compatriotes qui se sentent tellement déconsidérés ? Non, Monsieur le Premier ministre, la France des campagnes, la France des provinces ne devrait pas avoir besoin de redoubler d'énergie pour démontrer qu'ils sont des Français comme les autres. Nous sommes le peuple de France et le peuple de France a décidé, par la voix de ses représentants, de mettre définitivement fin aux ZFE.
Anne-Laure Blin, 41 ans, députée du Maine-et-Loire, du côté de Saumur. C'est une ancienne collaboratrice parlementaire de Michel Tabarot. Elle vient du syndicat d'extrême droite Uni quand elle était étudiante, mais elle s'est opposée aux manœuvres d'Éric Ciotti. Elle est plutôt favorable à un rapprochement avec le centre. En tout cas, elle pose une question sur les ZFE, auxquelles elle s'oppose évidemment.
Nous pouvons avoir des nuances ou des désaccords sans forcément hurler ou se montrer du doigt. En l'occurrence, la position du gouvernement n'a pas varié et elle est et sera évidemment respectueuse de la souveraineté parlementaire. La proposition du gouvernement était de revenir à un principe de confiance et de responsabilité aux collectivités locales et aux élus locaux en matière d'application de zones à faible émission. La proposition était, conformément à nos engagements européens, que seules les deux agglomérations qui dépassent les seuils de pollution, Paris et Lyon, continue à appliquer ce dispositif. L'Assemblée nationale a décidé, dans un vote souverain, en effet, de supprimer purement et simplement le dispositif. Mais l'expression du peuple de France, le ministre des Relations avec le Parlement se permet de vous le rappeler, prend corps non seulement dans la position de l'Assemblée nationale, mais également dans celle du Sénat. Et quand à la fin de cette semaine, vous aurez terminé le texte de simplification, nous convoquerons une CMP dans la discussion entre députés et sénateurs, là où le gouvernement ne siège pas en commission mixte paritaire, des décisions définitives pourront être prises. Donc nous sommes respectueux, évidemment, de la position des parlementaires. Néanmoins, je crois qu'il était sage de considérer que dans les villes où les...
Est-ce que vous pensez que les députés vont obtenir la fin des ZFE ?
Nous puissions conserver...
Visiblement, la droite et l'extrême droite sont très, très, très mobilisées contre les ZFE.
Au cours des 30 dernières années...
Est-ce que ça suffira ?
Une activité qui s'est développée alors qu'elle n'existait pas auparavant ? La kiné respiratoire sur de petits enfants, de très jeunes bébés. Dans ces grandes villes, un dispositif comme celui-là s'impose. Et dans les autres villes, et plus encore dans celles auxquelles vous faisiez référence, les ZFE ne s'appliquent pas, sauf confiance et responsabilité aux élus, s'ils le décident.
Merci, Monsieur le Ministre. Madame Blin.
La voix de la représentation nationale a été très claire. Nous refusons les ZFE où qu'elles soient, ni à Lyon, ni à Paris. Ça a été le vote ici, dans cette Assemblée. Et simplement pour vous remémorer, la France émet des tonnes de CO2 à raison de 0,9% des émissions mondiales.
Merci.
La France ne pèse pas lourd dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est l'argument qui a été utilisé par Anne-Laure Blin et par son prédécesseur aussi.
Je reviens de Nice, où se tenait la conférence, se tient encore la conférence des Nations Unies sur l'océan. C'était l'occasion pour la France d'aligner enfin ses aires marines protégées hexagonales sur les recommandations des scientifiques et les objectifs internationaux. Au lieu de cela, des discours et une manipulation des chiffres. Vous nous avez présenté une carte bidon qui ne change rien. Toutes les ONG sont d'accord là-dessus. Pour l'essentiel, les nouvelles zones prétendument renforcées, les fameux 4%, c'est ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin, puisque le chalutage de fond y était déjà interdit. On nage en plein greenwashing à la face du monde. Alors, monsieur le ministre ou madame la ministre, quels sont les vrais chiffres ? Nous voulons de la transparence. Avec qui avez-vous construit cette carte qui ne protège rien de plus que l'existant ? Pas les ONG, pas les scientifiques. D'ailleurs, la protection à la française n'est même pas aux normes internationales, car ce sont toutes les pêches destructrices qu'il faut interdire dans les zones protégées et pas seulement le chalutage. Votre carte ne satisfait que les lobbies de la pêche industrielle qui menacent et qui intimident. En témoigne le vandalisme au domicile de Claire Nouvian.
Emmanuel Macron. Claire Nouvian est une militante associative sur les océans.
De personne. Je crains, hélas, que si le Royaume-Uni vient de lui en donner en interdisant le chalutage de fond dans 50% des aires protégées anglaises.
Jean-Louis Roumégas, le député écologiste de l'Hérault du côté de Montpellier.
Va répondre. Madame la ministre,
vous avez peut-être suivi, il y a eu un sommet sur les océans qui a eu lieu à Nice.
Merci, Madame la Présidente.
Sophie Primas qui répond.
Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Roumégas, je sais que ma collègue Agnès Pannier-Runacher aurait aimé vous répondre. Les annonces de l'UNOC sont aussi le fruit de son travail avec toutes les ONG, avec toutes les parties prenantes, avec la science et de son engagement déterminé pour la protection des océans aux côtés du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre. Oui, les annonces du président de la République ont été fortes, et notamment, monsieur, sur les aires marines protégées. Nous déployons une stratégie cohérente de protection des fonds marins. Le chalutage de fonds que vous évoquez est un sujet important, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres sources de pression qui sont moins médiatiques, peut-être, mais qui sont tout aussi réelles. Nous nous intéressons à toutes ces raisons. Au chalutage, bien sûr, à la pêche, au nautisme, à l'extraction minière et même aux pollutions d'origine terrestre, car oui, c'est cela, s'appuyer sur la science. C'est technique, c'est exigeant, ce n'est pas toujours médiatique, mais c'est ce qu'attendent nos concitoyens en termes de résultats. La réalité, c'est que le chalutage de fond est déjà interdit dans 50% des eaux hexagonales et absent de 97% de nos eaux territoriales. Et ça, ce sont des faits. Dans le même temps, nous créons la plus grande aire marine protégée du monde et la plus grande aire de protection stricte au monde en Polynésie, avec un bijou de biodiversité. De même, nous avons obtenu la signature de 96 pays pour une déclaration commune sur un futur traité ambitieux contre les plastiques à la hauteur de ce que dit la science et que ce que demandent nos concitoyens. Alors oui, monsieur le député, on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer. C'est une approche saine et les acteurs avec lesquels nous travaillons ne se privent pas de nous le dire et de nous le demander. Mais pourquoi dire toujours des mensonges ? Cela ne rend pas service à nos océans.
Merci, Madame la Ministre. Monsieur Roumégas.
Oui, excusez-moi, vous noyez le poisson, si j'ose dire. Vous ne répondez pas précisément à la question des aires marines protégées hexagonales. J'ai la carte de Bloom ici qui montre que les zones que vous avez annoncées sont déjà protégées. Donc c'est le statu quo. Tout Nice bruisse de ce mensonge d'État. Vous abîmez l'image de la France à l'international. C'est la vérité.
Merci. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame la Ministre, il y a quelques jours, plusieurs sites pornographiques ont annoncé leur retrait du territoire numérique français. Je tiens à rappeler que cette décision est entièrement de leur fait. Ces sites ne sont pas contraints par une censure arbitraire. Ils quittent notre territoire car ils refusent de se conformer à une loi qui a été votée dans cet hémicycle. Cette loi, que j'ai eu l'honneur de co-rapporter avec mes collègues Paul Midi, Denis Masseglia, Anne Le Hénanf et Mireille Clapeau, impose aux plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, une mesure de bon sens. Rappelons les chiffres. En France, un mineur sur trois consulte un site pornographique au moins une fois par mois et un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à ce type de contenu. Or, faut-il encore souligner cette évidence ? Ce qui est interdit aux mineurs dans la rue, dans les écoles, dans nos foyers, devrait aussi l'être dans l'espace numérique. L'exposition précoce à des contenus pornographiques violents entraîne des souffrances chez nos enfants, troubles du développement, addiction, banalisation de la violence sexuelle, notamment envers les femmes, reproduction de schémas toxiques, voire criminels. Ces plateformes diffusent en toute impunité des contenus où se mêlent viol, inceste, actes de torture, humiliation extrême. Madame la Ministre, là où d'autres pays ont flanché, Royaume-Uni, Australie, plusieurs États des États-Unis, nous avons tenu bon, car en France, ce ne sont pas les plateformes qui font la loi. Mais nous devons aller plus loin et agir en européen. Aussi, face aux pressions de ces acteurs qui pensent pouvoir dicter leurs propres règles, je vous pose deux questions. La première, quels moyens mettez-vous en œuvre pour garantir que cette mesure ne puisse pas être contournée et reste effective dans la durée? La deuxième, comment la France entend-elle porter cette exigence de protection des mineurs?
Louise Morel, elle a 29 ans, elle est députée du Bas-Rhin, elle a été conseillère auprès d'entreprises du secteur alimentaire, elle est députée du mouvement démocrate, le MoDem de François Bayrou, qu'elle a rejoint en 2017. Et elle se pose une question sur les sites pornographiques.
Madame la députée Louise Morel, je vous remercie de m'interroger parce que ces sites, vous l'avez dit, ils ont décidé de se retirer de France. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas respecter nos lois, ils ne veulent pas protéger nos enfants. Et je tiens à leur dire, personne, personne n'est au-dessus des lois. Vous le savez, la loi SREN, ça a été un combat extrêmement long porté par les associations, porté par mes prédécesseurs, cher Jean-Noël Barrot, Marina Ferrari, porté par vous ici au Parlement, et qui a dit quelque chose de très simple. Le fait qu'un garçon sur deux, des 10 ans, une fille sur trois, des 10 ans aussi, puisse accéder à du contenu pornographique en cliquant sur un bouton, c'est fini. Ce contenu est interdit aux enfants depuis plus de 30 ans. Les sites doivent respecter leurs obligations. Les solutions existent. On nous a dit que c'était impossible, mais elles sont bien là. Elles sont utilisées par un certain nombre de sites qui, eux, se conforment à nos lois. Si ces sites internet ne veulent pas respecter nos lois, ne veulent pas protéger nos enfants, alors qu'ils s'en aillent. Nous allons mener ce combat en européen. Nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui. Ce n'est pas l'Europe qui est en retard, c'est la France qui a été en avance. Et je peux vous garantir, parce que je sors d'un Conseil européen, que tout le monde nous regarde et nous regarde avec fierté, parce que la liberté des adultes de consommer ce contenu ne doit pas se faire sur le dos de nos enfants. Parce que ces méthodes de mensonge, d'intimidation, qui consistent à mettre sur leur site internet que nous allons avoir accès aux informations de nos concitoyens qui sont dans leur bon droit de consommer ce contenu quand ils sont adultes et que nous allons pouvoir utiliser ces informations, c'est faux. C'est du mensonge. Si ces sites veulent utiliser ces méthodes pour continuer à se faire de l'argent sur le dos de nos enfants, nous leur répondons qu'ils s'en aillent. Et si ces sites pensaient pouvoir aller à la porte de l'Europe pour dire « nous trouverons d'autres pays qui, eux, ne suivront pas », qu'ils s'en aillent.
Clara Chapaz, en tout cas, qui a l'air confiante sur le fait que les autres pays européens vont aller dans le même sens que la France sur le bannissement des sites internet. En l'occurrence, elle l'a rappelé, ce n'est pas les sites qui ont été bannis. Hein. C'est des sites qui ont décidé de ne plus diffuser en France parce qu'ils refusaient de se conformer à la loi.
Merci, Madame la Présidente. présidente, chers collègues, ma question s'adresse à l'ensemble du gouvernement. Laissez-moi vous citer quelques hommes politiques d'Europe. Nous ne laisserons pas violer nos filles et nos femmes. C'était Viktor Orban ce lundi à propos des migrants. On ne peut pas considérer les urgences comme la solution à un mode de vie non civilisé. Matteo Salvini à propos de l'IVG il y a quelques mois. À l'égard de la démocratie, nous avons une position plutôt sceptique. Il s'agit de Christophe Bozac. Le réchauffement climatique est la plus grande escroquerie de l'histoire. Santiago Abascal. Enfin, si vous êtes noir, repartez. Martine Helme. Est-ce que je suis la seule que ces propos choquent ? Qu'ont en commun toutes ces personnes, en plus de bafouer nos valeurs démocratiques, républicaines et européennes ? Elles s'exprimaient ce lundi, dans le Loiret, mon département, lors du rassemblement de l'extrême droite européenne organisé par Marine Le Pen. Alors permettez-moi de vous rappeler que non, le Loiret n'est pas une terre d'extrême droite. Cet événement a le mérite de la clarté. Le RN nous rappelle qu'il cautionne les thèses racistes, discriminatoires, qu'il nie le réchauffement climatique, qu'il est contre les femmes, qu'il promeut un pouvoir autoritaire, qu'il est anti-UE et qu'il sert la propagande pro-Poutine. On est loin du discours lissé de ces derniers mois. D'ailleurs, Madame Le Pen y a salué la valeureuse Hongrie de Orban qui muselle sa presse, ses universitaires et sa justice, qui est ouvertement homophobe, anti-IVG, xénophobe et pro-Kremlin. Alors que dire, Monsieur le Premier ministre, du silence assourdissant de ce gouvernement ? Qu'attendez-vous pour dénoncer les propos tenus ce lundi ? Se taire, Monsieur le Premier ministre, c'est cautionner. Se taire, Monsieur le Premier ministre, c'est fragiliser
du... Constance de Pellichy, elle est députée du Loiret, elle a 38 ans, elle est franco-belge, elle a été collaboratrice parlementaire de Dominique Baudis quand il était député européen, et elle pose une question sur ce rassemblement d'extrême droite qui s'est tenu dans sa circonscription du Loiret. Standing ovation sur tous les bancs, à l'exception des bancs de l'extrême droite. Regardez tous les députés qui se lèvent pour applaudir très fort cette question au gouvernement de Constance de Pellichy. Très bonne question, au demeurant.
Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Prima, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. S'il vous plaît, un peu de tenue. S'il vous plaît.
Merci, Madame. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente.
Madame Prima, à la parole. Merci.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance de Pellichy. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas de simples mots qui sont gravés sur le fronton de nos mairies. Ce sont les biens les plus précieux de notre République. Ce sont les pierres angulaires sur lesquelles se fondent toutes les politiques publiques que nous menons sous l'autorité du Premier ministre. Comme vous, ce gouvernement y est profondément attaché. Et c'est au nom de ces principes que nous agissons chaque jour pour garantir les libertés individuelles et collectives, pour construire ensemble une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle, pour faire vivre partout l'idéal républicain. Je ne peux donc pas laisser dire, ni même laisser penser, Madame la députée, que ce gouvernement, d'une quelconque manière, cautionnerait des propos ou des comportements qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux, au respect de la démocratie, aux valeurs de la République ou aux engagements que nous avons pris en matière de transition environnementale. Nous sommes clairs et nous sommes cohérents. Il ne peut y avoir de compromis avec les principes fondateurs de la République française. Toute parole publique, toute action publique, tout arbitrage politique doit s'inscrire dans le respect absolu de cette devise qui nous unit et nous engage tous, liberté, égalité, fraternité. Je le dis, Madame la députée, avec gravité, mais aussi avec conviction, ce gouvernement ne s'écarte pas, ne s'écartera jamais de cette boussole républicaine. Et oui, nous condamnons les propos que vous avez à l'instant rapportés.
Merci, Madame la ministre.
Bon, le gouvernement qui se contente d'une réponse assez simple.
Groupe Horizon et Indépendant.
Anne-Cécile Violent.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Le prêt-à-porter français traverse une crise profonde. Entre 2023 et 2024, plus de 15 enseignes ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire, emportant avec elles des milliers d'emplois et entraînant la fermeture de centaines de points de vente dans nos territoires. Plus de 35 000 emplois en 10 ans. C'est tout un modèle économique qui vacille, fragilisé par la hausse des coûts de production, la baisse du pouvoir d'achat, la mutation des modes de consommation et la concurrence grandissante de la mode express et ultra express, dont l'impact dépasse largement la seule question climatique. Hier, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, portée par le groupe Horizon et Indépendants. Je souhaite associer mon collègue Antoine Vermorel et toutes les filières de la mode et saluer ensemble l'engagement des sénateurs qui ont mené un travail rigoureux et constructif sur ce texte. Il constitue une réponse concrète à une triple urgence écologique, économique et sociale qui ne peut plus attendre. Je remercie la rapporteure Sylvie Valente-Lehuire et le président Jean-François Longeau qui ont maintenu l'examen du texte, ainsi que les ministres Agnès Pannier-Runacher et Véronique Louwagie pour leur soutien fort, ainsi que Christophe Béchu il y a un an. Grâce à un travail constructif des deux chambres et à l'engagement du gouvernement, la France s'inscrit comme un fer de lance pour légiférer et inspirer le travail européen sur ce sujet, comme elle a pu le faire notamment sur le principe du pollueur-payeur. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser la position que défend la France dans le cadre des négociations européennes sur la taxe des petits colis de provenance extra-européenne, ainsi que l'ambition que vous défendez pour rétablir les conditions de concurrence équitables et protéger nos filières industrielles françaises, en particulier la filière textile ?
Anne-Cécile Violent, elle est députée de Haute-Savoie du côté de Thonon-les-Bains. Elle a 51 ans, elle est psychologue clinicienne en libéral et elle pose une question sur l'avenir du prêt-à-porter français. Vous avez entendu parler de ces fermetures de marques françaises de prêt-à-porter bien connu, Camailleux notamment.
Je vous remercie.
Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire.
Véronique Louwagie qui va répondre.
Merci
pour le gouvernement.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Anne-Cécile Violent. Je partage votre constat et je veux vous remercier de tout votre engagement sur cette question. Effectivement, notre secteur textile en France connaît de graves difficultés. Vous avez relevé une succession de difficultés de fermeture d'enseignes et notre commerce souffre. Notre commerce souffre parce qu'effectivement il y a une concurrence déloyale qui s'établit au regard d'un certain nombre de pratiques industrielles et commerciales émanant de plateformes étrangères. Ces pratiques ont des répercussions au niveau environnemental. Je rappelle que le fret aérien a 100 fois plus d'impact en matière d'environnement que le fret maritime, et au niveau économique sur nos commerces qui ferment, et ce sont également les vitalités de nos centres-villes qui en pâtissent. Rappelez simplement un chiffre. Nous avons par exemple une enseigne Kiabi qui dispose de 350 magasins en France, donc qui participe à la vitalité de nos territoires, qui a le même chiffre d'affaires qu'une plateforme étrangère. Donc oui, il nous faut agir. Vous avez évoqué la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat hier, qui définit un certain nombre de points, notamment un malus qui sera établi sur tout ce qui est textile fast fashion, avec effectivement une taxe sur les colis de 2 à 4 euros qu'ont indiqué les sénateurs. Je veux également souligner qu'au niveau européen, ma collègue Amélie de Montchalin travaille avec ses homologues pour revoir le dispositif d'exemption des droits de douane jusqu'à 150 euros et la mise en place d'une révision des tarifs douaniers au travers des frais de gestion. Au niveau de la DGCCRF, j'ai demandé un certain nombre de contrôles, à ce que les contrôles soient triplés au niveau des articles prélevés, que toutes les plateformes étrangères soient contrôlées, qu'elles le soient à 360 degrés. Nous avons également une étude qui est en cours pour mettre en place, qui pourrait l'être dès 2026, des frais de gestion pour financer la régularité, la conformité des articles et tout ce qui participe à son contrôle.
Je vous remercie. La parole est à Madame Soumya Bourouaha pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine.
Soumya Bourouaha pour le groupe communiste.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ce lundi, un navire humanitaire, le Madeleine, qui tentait de briser le blocus humanitaire de Gaza, a été arraisonné par les forces de sécurité israéliennes. À son bord, 12 personnes, dont 6 ressortissants français. Cette interception dans les eaux internationales constitue une violation grave du droit international, qui n'a toujours pas été condamné par la France. J'apporte au nom de mon groupe notre soutien à l'équipage et demandons sa libération immédiate et sans condition. Que cherchent à exprimer les autorités israéliennes en agissant de la sorte ? Le message est clair, le blocus continuera. L'aide humanitaire, pourtant vitale, ne franchira pas les frontières de Gaza. Gaza, affamée, asphyxiée,
où plus de 15 000 enfants ont déjà péri, selon l'UNICEF. Chaque jour, les images nous bouleversent, dont celle, hier encore, de Palestiniens abattus alors qu'ils tentaient d'accéder à une aide humanitaire. Israël, enfermé dans une logique coloniale, piétine le droit international. Les crimes de guerre, l'apartheid, le nettoyage ethnique se poursuivent inexorablement jusqu'au gouffre d'un génocide. Face à cela, la réaction des plus hautes autorités de l'État n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi la société civile, comme la flottille ou les dockers de Marseille, qui ne supportent plus cette inaction, tentent par tous les moyens de briser un blocus meurtrier et de mettre fin aux livraisons d'armes de la France en Israël. À l'heure où l'on comprend que le président de la République s'apprête à reculer face aux pressions sur la promesse faite d'une reconnaissance de l'État palestinien lors de la conférence de New York d'ici quelques jours, je n'aurai qu'une question, monsieur le ministre. Quand la France saura-t-elle trouver le courage d'une diplomatie ferme, respectueuse du droit des nations?
Soumia Bourroa, elle a 61 ans, elle est députée de Seine-Saint-Denis du côté du Blanc-Mesnil et de la Courneuve. Elle est modéliste dans le secteur de la mode et de la couture. Elle est même professeure de modélisme et des métiers de la mode en SECPA. Elle pose une question, notamment sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France.
Question bien vite, je voudrais rendre hommage aux agents du ministère des Affaires étrangères qui ont admirablement géré la situation difficile de nos 6 ressortissants qui tentaient de gagner Gaza par bateau. En les alertant sur les risques auxquels ils s'exposaient, en interpellant les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident, et en se tenant aux côtés de nos 6 ressortissants depuis leur arrivée sur le territoire israélien, le consul général s'est entretenu avec nos 4 ressortissants encore là-bas, ceux qui ont à ce jour refusé de signer les papiers permettant leur expulsion et donc leur retour en France. Et tout cela, les agents du ministère l'ont fait, quoi qu'ils puissent penser de la vacuité de cette opération de communication. Tout ça, ils l'ont fait alors même que sous l'impulsion de certains irresponsables, le centre de crise et de soutien du ministère, mes équipes et moi-même avons été harcelés, submergés par des dizaines de milliers de mails. Et alors même que ces agents du ministère des Affaires étrangères ont été diffamés, calomniés par ces mêmes irresponsables. Rien de tout cela, Madame la députée, ne sert ni la cause des Palestiniens, ni la sécurité de nos 6 compatriotes. Alors, vous soulevez la question de la légalité de l'arraisonnement de ce bateau en mer. C'est une question légitime, je comprends qu'elle ait une importance fondamentale pour vous. C'est une question qu'il appartiendra aux juridictions de trancher une fois rassemblés tous les éléments. Mais la priorité aujourd'hui, ce doit être le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas et l'accès immédiat, sans entrave et massive, de l'aide humanitaire à Gaza pour abréger les souffrances des populations civiles. Mais en rien, et d'aucune manière, les gesticulations de Madame Rima Hassan, son instrumentalisation de la souffrance des Gazaouis, ne concourent à l'atteinte de ces objectifs.
Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
Voilà, c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Les députés vont pouvoir aller retrouver le reste de leur boulot, que ce soit dans leur bureau ou en commission, ou alors en séance publique. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'ordre du jour de la séance publique cet après-midi. Fin de cette séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Comme vous l'aviez prédit, effectivement, avant la séance, il y a eu plusieurs questions qui ont porté sur la flottille pour la liberté. Qui a tenté de rejoindre Gaza. Une question qui a été posée notamment par Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, à François Bayrou. La réponse de François Bayrou a évidemment beaucoup déçu les députés de la France Insoumise qui ont décidé de quitter la séance des questions au gouvernement sous forme de protestation. C'est ce qu'on appelle un incident de séance dans le jargon. Rien de grave, hein, ça n'a pas empêché la séance de continuer à se poursuivre. Mais voilà, un léger incident avec le départ d'un groupe de députés pendant la séance. Quand est-ce qu'on va décider à aller virer nous-mêmes ce gouvernement illégitime et indigne? Eh bien, lors des prochaines élections. C'est l'occasion. Je suis fatigué, patron. Ah bah, ça peut être fatigant, hein, les séances de questions au gouvernement, c'est pas là pour plaire. Hein. Bayrou, il a dit quoi qui les a braqués ? Je sais plus, il s'est énervé parce qu'il a fait une réplique à la réplique de Mathilde Panot. Oui, c'est Mathilde Panot lui a reproché d'être le perroquet des éléments de langage de Benjamin Netanyahou. Et François Bayrou, ça l'a piqué au vif. Du coup, il a pris le micro, il a dit non, je suis pas du tout le perroquet des éléments de langage de Netanyahou. Je suis Premier ministre, je parle au nom de la France. Je sais plus exactement ce qu'il a répondu. LFI, ils auraient pu quand même rester pour la dernière question, du coup, ça aurait eu plus de poids.
Ah bah.
Oui. Bah après, LFI, une fois qu'ils ont posé leur question, ils n'ont plus rien à faire dans la séance. Hein. C'est ce qui explique d'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait la question dans le chat, comment ça se fait que les bancs sont clairsemés. C'est normal que les bancs soient clairsemés, parce que c'est une séance de questions au gouvernement, il n'y a pas de vote. Hein. Les députés n'ont rien d'autre à faire que écouter et applaudir. Il y a un certain nombre de députés, et je les comprends, qui estiment qu'ils seront mieux dans leur bureau. Ils seront mieux dans leur bureau à bosser sur leur dossier. Est-ce qu'on a le droit de venir regarder une séance ? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, hein. C'est ouvert à tous. Je vous rappelle qu'il y a des tribunes en haut de l'hémicycle. Il y a des tribunes qui sont accessibles au public. Il suffit de vous rendre sur le site internet de l'Assemblée nationale pour voir comment faire pour y aller. Quels sont les créneaux, tout ça. Comment on peut obtenir un billet de séance pour avoir accès à la séance. Mais c'est tout à fait possible. Quel est le rôle des personnages en smoking à côté de la présidente de l'Assemblée nationale ? Les personnes en smoking, ce sont les appariteurs de l'Assemblée, ce sont les huissiers de l'Assemblée nationale, ce sont des fonctionnaires de la séance qui sont là pour aider les députés pour toutes les questions logistiques et techniques. Voilà. Et ils font aussi un peu la police quand il y a des débordements, mais c'est assez rare. Et après, les personnes qui sont en costard derrière la présidente de l'Assemblée, les deux messieurs en costume cravate, ce sont des hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui sont là pour aider la présidente de la séance à présider la séance. Si elle a des questions sur le règlement de l'Assemblée, eux, ils peuvent lui répondre. C'est fini les QAG ? Ouais, c'est fini les QAG. C'est la fin de la séance des QAG du mercredi. Dont le directeur de l'Assemblée nationale. Dont le directeur qui s'appelle le secrétaire général, je crois, de l'Assemblée nationale. Il s'appelle Emmanuel Le Corvésier. Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. Secrétaire général de la présidence, monsieur Damien Chamusy. C'est Damien Chamusy, voilà. Qui est le secrétaire général de l'Assemblée et de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est lui que vous voyez derrière la présidente. Je vais vous le montrer. C'est lui. Ah, attendez, il faut que je... Hop. Voilà. Dans un article du Dauphiné. On est d'accord que la commission hier, elle était dirigée par des juges non élus ou c'était des députés. C'était que des députés. Il n'y a aucun juge, il n'y a pas de magistrat. Séparation des pouvoirs oblige. Les commissions d'enquête parlementaire n'ont rien à voir avec l'ordre judiciaire, qui est autonome. C'est lui qui gère les gosses, les députés. Ouais. Ce sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui ont pour boulot de faire tourner la maison, d'accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat pour faire tourner la boutique. Merci Belle de Jour pour ton resub. Merci beaucoup Néodyme Malénarion Julie Agitation, merci à toi Julie. Merci Jeff, merci Hilo Trésor, merci Peur Jean. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je sais que le Sénat a une cantoche, mais est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y en a une aussi? Oui, bien sûr, il y a même plusieurs cantines à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est des milliers de personnes qui travaillent. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a 577 députés qui ont chacun deux ou trois collaborateurs d'élus, qui se réunissent en une grosse dizaine de commissions, qui ont chacune des fonctionnaires qui sont attachés au... Enfin bref, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui travaillent toute la journée. Donc oui, il y a des cantines, oui. Ça doit être une sacrée organisation. C'est une grosse organisation. J'ai du mal à comprendre l'accusation d'instrumentalisation faite à la flottille, qu'en penses-tu? Je vais pas t'aider à la comprendre. C'est une accusation qui est faite par les opposants à la flottille, qui jugent que c'est une opération de communication qui sert qu'à faire du bruit et qui ne règle rien. Voilà. C'est ce que disent les opposants à la flottille pour Gaza. Parce que justement, c'est le principe de l'activisme. C'est une opération qui vise à attirer l'attention sur un problème pour faire parler du problème. C'est un peu le concept, quoi. Mais c'est comme les gens qui se collent la main sur le bitume, tu vois. C'est une opération militante qui vise à attirer l'attention. Argument un peu validé par l'interview sur Backseat, besoin de médiatisation. Mais bien sûr, c'est-à-dire que les membres de la flottille pour la liberté étaient tout à fait partants pour s'exprimer dans les médias, pour que ce soit médiatisé en fait ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est très assumé, hein, c'est pas quelque chose de caché. Mais donc ce que les opposants disent, c'est que le bruit médiatique que ça provoque est disproportionné par rapport à la réalité de l'embarcation et de son pouvoir de nuisance, quoi. Voilà, mais il n'y a rien de nouveau, hein, pour le coup. C'est une opposition assez classique sur une action militante. Mais bon, c'est quand même pas la première fois que vous l'entendez. L'accusation de « tout ça, c'est de la com », tout ça, c'est... Enfin, je veux dire, non seulement vous l'entendez, mais en plus, vous l'utilisez souvent aussi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, quoi. Je pense même qu'Israël aurait eu intérêt à ne pas intervenir. Bah non, parce que, enfin, j'en sais rien, moi je suis pas dans la tête d'Israël, mais ils ont un blocus depuis 17 ans sur les eaux internationales face à Gaza. Ils laissent passer aucun bateau, quoi. Mais d'où l'intérêt pour les militants de venir titiller ce blocus. Ça a du sens. Enfin, moi je trouve ça cohérent comme action militante. Tu veux dénoncer un blocus, bon bah t'y vas. Et tu démontres que le blocus est illégal. Et illégitime. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance de questions au gouvernement? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué particulièrement? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été soulevés? Il y a le sujet de la pornographie qui a été abordé quand même, l'occasion d'entendre Clara Tchapaz, qu'on n'entend pas tous les jours, la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, qu'on a entendu s'exprimer sur le départ des sites pornographiques qui ont décidé de quitter la France pour ne pas se conformer à la loi. Moi, je la trouvais très confiante dans la capacité qu'a l'Union européenne de réussir à imposer la même chose à l'avenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même fou que des sites porno pensent qu'ils vont réussir à tenir tête face à un pays comme la France. Bah, ils tiennent pas tête, hein, justement. Ils ont arrêté de tenir tête. Avant, ils tenaient tête. Maintenant, ils ont capitulé, en fait. Ils ont décidé de quitter le pays. Pas de prise de parole sur les archéologues, malheureusement. Non, effectivement. Pour moi, c'est une stratégie pour que la France rétropédale. Je vois pas comment la France pourrait rétropédaler. Hein. Est-ce que vous pensez que la France pourrait donner demain l'accès aux mineurs aux sites pornographiques, alors que c'est interdit depuis plus de 30 ans ? Rétropédaler sur les moyens de contrôle? Bah, je vois pas comment. Le site PH, etc., on fait exactement ce que voulait le gouvernement, qu'il ne soit plus accessible. C'est pas ce que voulait le gouvernement. Hein. Le gouvernement voulait qu'il y ait un contrôle effectif de l'âge et donc de la majorité des utilisateurs. Et le gouvernement expliquait qu'il y a des solutions techniques qui existent. Le truc, c'est que les sites comme Pornhub et autres ne veulent pas avoir à dépenser de l'argent pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs. En fait, se conformer à la loi, ça leur aurait coûté de l'argent. Et ils n'ont pas envie de dépenser d'argent. Il y a d'autres sites qui se sont conformés à la loi. Oui, il y a d'autres sites, tu as raison d'ailleurs de le dire. Il y a d'autres sites pornographiques qui se sont conformés à la loi et qui contrôlent effectivement la majorité de leurs utilisateurs. Quel site? C'est pour un ami. J'en sais rien, je saurais même pas te donner les noms des sites en question. Ça laisse juste le champ libre à d'autres plateformes qui, elles, se conformeront. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres plateformes qui vont probablement prendre la place de Pornhub et des autres sites qui ont décidé de quitter la France. Peut-être qu'elles ont simplement abandonné un marché. Hein. Le VPN résoudra tout. Non, mais les VPN, c'est pas le sujet. Le VPN, c'est pour les adultes. C'est un truc qui est utilisé par des adultes pour continuer à se connecter sur ces sites-là. L'enjeu, c'est les enfants. L'enjeu, c'est l'accès des enfants. Et le fait de devoir installer un VPN peut-être peut éventuellement être une difficulté supplémentaire qui éloigne les enfants des sites porno. Auquel cas, tant mieux, c'est réussi. On a réussi le pari, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cynisme chez beaucoup d'entre vous, de personnes qui trouvent que c'est très bien que les sites porno soient accessibles à des enfants. C'est quoi votre position là-dessus? Vous pensez que c'est une bonne chose que des enfants aient accès à des sites porno? C'est votre opinion, c'est votre vote? Je comprends bien le cynisme de « Ouais, MDR, VPN, c'est bon, VPN, vas-y, let's go, VPN. » Mais en fait, le fond du sujet, c'est pas ça. Le fond du sujet, c'est... Vous êtes content que les enfants ils aient accès au porno? Ça vous convient? C'est une bonne chose? C'est de la liberté, c'est ça? Donc je vois qu'il y a plus ou moins un consensus dans le chat pour dire que c'est effectivement pas une bonne chose que les enfants aient accès à des sites pornographiques. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la deuxième question, c'est ça faire de la politique, hein. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut ne rien faire, vous avez le droit de répondre, on fait rien. On fait rien, on capitule, on abandonne, on fait pas de politique publique. Voilà, la politique s'arrête. On travaille pas sur le sujet, on soigne les conséquences à peu près. Politique parentale, bah ouais, mais ça marche pas. Hein. Je suis désolé, mais c'est très naïf, hein, le coup de « on éduque les parents ». Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les parents n'ont pas la main sur ce que les enfants font sur Internet. On peut se bercer d'illusions collectivement. Hein. On peut se mentir à nous-mêmes, c'est possible, et se dire que tout ça doit appartenir à la famille. Et c'est aux parents de gérer ce que font leurs enfants. Ok, et qu'est-ce qu'on fait s'ils gèrent pas? Bah on fait rien. L'école, ça fait partie de la solution, évidemment, comme d'habitude, mais c'est pas l'école qui a la main sur ce que peuvent faire les enfants avec leur ordinateur une fois chez eux. Donc oui, il faut sensibiliser les jeunes, oui, il faut faire de l'éducation sexuelle dès le collège. Hein. Moi, j'ai toujours été favorable aux différentes... je me souviens, pour ça, il y en a peut-être d'entre vous qui étaient un peu jeunes, mais à l'époque, les ABCD de l'égalité, vous vous souvenez? Le truc de Najat Vahaou-Belkacem quand elle était ministre, qui prévoyait de faire de la sensibilisation sur les plus jeunes, sur la vie affective et sexuelle. Qu'est-ce qu'elle s'était pris dans la gueule, hein? Déjà à l'époque, hein. Le point, l'Express, Valeurs Actuelles, qui était rentré en campagne contre les ABCD de l'égalité en disant que c'était la théorie du genre. Vous vous souvenez de l'époque? La théorie du genre. On va apprendre la théorie du genre aux enfants. Voilà, c'était ça le... Et ça avait très très bien marché, hein, comme campagne contre les ABCD de l'égalité. Mais moi, je pense que il faut rajouter des barrières à l'entrée des sites internet pornographiques. Je dis pas que les ados n'arriveront jamais à les surpasser, ces barrières. Je dis pas ça. Ce serait naïf, d'ailleurs, de le dire. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose que de forcer les sites internet à contrôler, effectivement, la majorité des personnes qui consomment le site. Ça existe dans la vraie vie. Quand tu veux acheter un site porno, quand tu veux acheter un magazine porno chez un marchand de journaux, en principe, j'ai bien dit en principe, le marchand de journaux est censé contrôler ton âge. Alors, il contrôle de la même manière que quand il vend des clopes. Hein. Mais quand il a l'impression que tu es un peu jeune, normalement, il est censé demander une carte d'identité. C'est pas parfait, ça marche pas à chaque fois, il faut renforcer les contrôles, tout ça, tout ça. Évidemment. Mais c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est une mauvaise idée. Vous voyez, la nuance que j'essaye de mettre là-dedans ? C'est pas parce que c'est pas parfait que c'est une mauvaise idée pour autant. Il faut renforcer, il faut veiller à l'effectivité du contrôle, etc. Bien sûr, c'est faisable. Mais par ailleurs, mais même plus globalement que ça, moi j'ai aussi un problème avec certaines personnes, parfois dans le chat, mais aussi ailleurs, sur une certaine philosophie d'Internet. J'ai l'impression qu'Elon Musk, il a gagné quelque chose. Il a réussi à ancrer dans la tête de tout le monde que Internet, c'est le Far West. Et ça sera toujours le Far West. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est la vision américaine, libertarienne du système. Et nous, en Europe, qui essayons de se dire qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Et on peut agir. On peut changer les choses. On peut améliorer les choses. On peut même améliorer Internet. Oui, c'est possible. Ça, c'est très européen comme manière de voir les choses. Les Américains détestent ça. Et les plateformes d'Amérique du Nord sont en guerre contre cette vision-là de l'Internet. Et c'est un truc qui me saoule. Je pense qu'on a une bataille à mener, nous les Européens, on a une bataille à mener sur une certaine manière d'envisager Internet. Non, Internet est bien mieux sans intervention des États. Et bah, pardonne-moi de ne pas être d'accord avec toi. Je pense qu'Internet est mieux avec l'intervention des puissances publiques qui ont une force de régulation utile pour éviter des dérives. Et j'ai bien conscience d'être complètement européen dans ce que je te dis. Toi, par contre, ton rejet de l'État me semble être tout à fait américain. Ce qui n'est pas grave en soi, on peut ne pas être d'accord. Hein. Mais moi, je rejette pas l'État, en fait. Je rejette pas la puissance publique, je rejette pas les services publics. Donc non, il y a cette espèce de vision de Internet, c'est le Far West, chacun se démerde, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, et on ne s'intéresse pas à la pédocriminalité, on ne s'intéresse pas au terrorisme, on ne s'intéresse pas au cyberharcèlement, on ne s'intéresse pas à... Voilà, tous ces problèmes-là, en fait, on les met de côté, on ne les regarde pas, bah, il suffit de ne pas les regarder, ça, ce n'est pas un problème. Après tout... Un échange de fichiers pédopornographiques entre des majeurs qui font ce qu'ils veulent. On est dans un pays libre. Bon, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, je vois pas les choses de cette manière-là. Et on a réussi à le faire. Il n'y a rien d'impossible techniquement. On a réussi à le faire avec le DSA et le DMA. Et surtout avec le RGPD, l'Europe est capable de changer Internet. Hein. Elle l'a déjà fait par le passé. C'est quoi tout ça ? C'est des réglementations européennes sur Internet ? Qui régule les marchés, les services numériques, notamment les réseaux sociaux. Et le RGPD, c'est ce qui force les sites internet à déclarer les cookies et te faire accepter les cookies que tu acceptes de partager avec eux ou pas. Je vulgarise à mort. La vision américaine de ma liberté à tout prix, c'est comme en économie, c'est quand ça les arrange, sinon c'est droit de douane et contrôle. Oui, c'est vrai. Oui, en plus, les États-Unis sont assez hypocrites. C'est vrai. J'espère que dans le bras de fer qui a été engagé entre l'Europe et les sites porno, c'est l'Europe qui va gagner à la fin. J'espère qu'il y aura une obligation qui sera effective de contrôler l'âge des utilisateurs des sites. Et je sais bien que c'est pas parfait. que ça n'empêchera pas certains jeunes de contourner le truc. Ça, je le sais très bien. Le bras de fer est déjà gagné. Pas vraiment, non. Enfin, pour l'instant, il y a juste trois sites porno qui ont quitté le... qui ont quitté la France. On n'y est pas encore. Hein. On aura gagné le jour où les sites porno reviendront avec un contrôle effectif de l'âge de leurs utilisateurs. La vraie question, c'est où tu mets le curseur entre modèle US et modèle chinois, qui, on va dire, sont opposés. Oui, tu as raison. Non, non, mais bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans un système dictatorial où les États contrôlent absolument tout ce qu'on fait. Par exemple, moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec la fin de l'anonymat, qui d'ailleurs n'existe pas. On parle de pseudonymat sur Internet. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la fin du pseudonymat. Je pense que le pseudonymat fait partie de l'identité d'Internet et qu'il faut le protéger. J'ai parfaitement conscience que ça implique aussi du cyberharcèlement, de manière beaucoup plus puissante. Mais charge à des réseaux sociaux de réussir à nous démontrer que sans pseudonyme, on peut créer un réseau social de meilleure qualité. Je le dis avec d'autant plus de facilité que moi, je n'ai pas de pseudonyme sur Internet. Hein. Jean Massier, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom. J'ai même pas de pseudo. Donc, je fais partie des rares personnes qui pourraient se permettre de dire « Ouais, regardez, ça marche, il faut mettre fin au pseudonymat. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc oui, il faut pas tomber dans les dérives du modèle chinois, ça c'est sûr. Vive le modéralisme. CF, procès ultia, etc. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le pseudonymat n'est pas absolu et parfois il est possible de remonter. Et moi, je pense que les services de police, dans le cadre d'enquêtes criminelles, doivent pouvoir remonter les pseudonymes, bien sûr. Et que les plateformes doivent obligatoirement se conformer. Elle le fait déjà. Oui, ouais, je sais. Non, mais c'est une bonne chose. Enfin, évidemment, c'est une bonne chose. Mais je veux que ce soit fait dans le cadre réglementaire d'une enquête menée sous l'égide d'un magistrat. Enfin, vous voyez, en France et en Europe, on a quand même des garde-fous sur l'état de droit. Et heureusement. Donc moi, je veux juste que ça continue comme ça. C'est pas une question facile, pardi. Bah non, c'est pas facile, évidemment. Mais la politique, c'est pas facile, hein. Et heureusement, d'ailleurs. On va s'arrêter là, les copains. Je vais faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Backseat aura lieu vendredi. Backseat aura lieu vendredi à 17h en direct des 130 ans de la CGT. Si vous habitez à Paris, attention, si vous habitez en Ile-de-France, je vous donne rendez-vous à 17h vendredi sur le parvis de l'hôtel de ville de Montreuil. Il y aura un événement spécial pour les 130 ans de la CGT. Avec Backseat à 17h, et ensuite il y aura des prises de parole et ensuite il y aura des concerts. Ça va être une fête populaire trop cool, et on est très content d'être partenaire de la CGT pour leurs 130 ans. Ok ? Allez, on va faire un raid chez Klemovic. Voilà. On fait un raid chez Klemovic. Merci beaucoup d'avoir été là, chers amis. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à vendredi, 17h, pour Backseat. Merci les copains. Ciao, ciao.
Cible par des arnaqueurs qui guettent les réactions des utilisateurs en réponse à ces pratiques. Victor.